I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et si nous faisions le bilan de cette année sportive et podcastique? Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Bon, aujourd'hui, je vous fais pas la petite présentation sur le poids que j'ai perdu, etc. Mais je vous rappelle que mon ambition, c'est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial parce que c'est le dernier épisode de l'année. Donc, c'est un bilan à la fois du podcast et de l'année un petit peu sportive. Et puis aussi une foire aux questions, une FAQ, parce que je vous ai posé une question sur Instagram, mon compte @BertrandSoulier, mais aussi dans l'Amsterdam Running Club. Je vous ai demandé si vous avez des questions et j'en ai eu plein de questions. Et puis, je vous ai aussi demandé quel était votre épisode préféré. Et là aussi, j'ai eu beaucoup de réponses. Alors, on va essayer de faire un petit peu le bilan de tout ça. Mais d'abord, je vais commencer par un bilan sportif, le bilan de mon année. Bon, je dois vous dire que j'ai couru deux fois moins de kilomètres que prévu. J'avais prévu de faire 2021 kilomètres en 2021, ce qui était très logique. Et au mois de janvier, je m'étais un peu pris comme ça de bien faire les choses. Et puis, patatras. Bah ouais, tout simplement, je me suis blessé au genou. Hein. J'ai mon ménisque qui a lâché. Alors, je pense qu'il était faible depuis très longtemps. Sauf que là, ça s'est mis à enfler, que je pouvais plus plier le genou, que je pouvais plus faire grand chose. Et donc, le verdict a été simple, hein, voilà, tout simplement, il fallait opérer. Et c'était pas ma seule opération de l'année, parce que quelques temps avant, je m'étais fait opérer d'une vasectomie. Voilà, j'ai subi une vasectomie volontaire, hein, j'avais décidé de faire une vasectomie. Et donc, la vasectomie, c'était genre février, et puis environ 4 semaines plus tard, l'opération du ménisque, les deux, je dois le préciser, avec une anesthésie locale. Je voulais voir un petit peu ce qui se passait, donc j'ai vu l'intérieur de mon genou, expérience très intéressante. Quant à la vasectomie, bon, je vous raconte pas tous les détails, mais je l'avais fait dans un autre podcast, vous trouverez ça sur mon blog bertrandsoulier.com sans aucun problème. Donc ces deux opérations là m'ont fortement ralenti, bien entendu, dans mon rythme de course. On va dire qu'il y a 6 mois où j'ai quasiment pas couru ou très peu, hein, tout simplement. Alors, après la vasectomie, un petit peu, le temps que les fils se résorbent. Et puis ensuite, j'ai été opéré du genou. Donc, de toute façon, j'avais pas mis beaucoup de volume entre les deux opérations. Et puis, après l'opération du genou, forcément, il fallait remettre le genou d'aplomb, hein, faire du renforcement, faire de la rééducation, de la kiné. D'abord, j'ai marché avec des béquilles. J'ai perdu 4 cm à peu près de tour de mollet, 4 cm de tour de cuisse environ. Hein, et c'est toujours pas récupéré. Si vous regardez mes photos Instagram, vous verrez que ma jambe droite est plus faible encore, toujours plus faible musculairement. Et pourtant, c'est pas faute de faire des fentes, hein, d'essayer de récupérer tout ça, mais ça revient pas. Voilà, il faut encore un petit peu de temps. Bon, ça a été 6 mois avec très peu de courses, mais où j'ai beaucoup appris. Déjà, j'ai appris finalement la notion de blessure, quoi, hein. Qu'est-ce que ça fait de se blesser comme ça, de cette manière-là? Je m'étais blessé avec une périostite, mais la périostite avait beaucoup moins duré. Mais rappelez-vous, c'était au tout début du podcast, c'était dans la préparation de mon premier marathon. Je m'étais blessé 15 jours avant le marathon de Lyon, que j'avais pas pu faire. Et donc, j'avais découvert un petit peu le charme de la périostite, de la reprise quelques temps après. Là, c'était plus long parce que il y a eu l'opération, il y a eu plus de choses qui sont rentrées en jeu, forcément. Et ça a pris plus de temps, hein, puisque en fait, j'ai vraiment pu vraiment reprendre la course autour de, on va dire, juin, juillet, dans ces zones-là, hein, vraiment, où le vrai rythme est venu à ce moment-là. Donc, je me suis renseigné, j'ai fait des épisodes avec notamment Pascal d'Apirone, on a discuté de lui, son opération, ce qu'il en avait vécu, puis j'ai croisé d'autres personnes, puis j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont posé des questions, hein. J'ai eu vraiment beaucoup de retours, j'ai fait des vidéos, même fait une vidéo sur comment marcher avec une béquille. Pour tout vous dire, vous trouverez ça sur la chaîne du Hamster Zoning Club, chaîne YouTube du Hamster Zoning Club. Donc, j'ai beaucoup appris, j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai regardé aussi le fonctionnement de mon corps, pourquoi, est-ce que ça marchait pas, etc. Et puis, ça m'a amené dans des situations qui étaient un petit peu compliquées. Je vous l'avais expliqué dans un épisode sur le problème de ma sédentarité. Manque de vitamine D, manque de sortie, manque de sport, etc. J'ai pris du poids, j'ai mal mangé, j'ai pris du poids, une dizaine de kilos, hein, qui sont oh, pratiquement tous perdus. À quelque chose près, hein, je suis revenu à mon poids, alors pas le poids que j'avais pour le marathon, mais le poids, on va dire, qui est que j'équilibre assez facilement. Donc là, je suis assez content de tout ça. Donc, ça a pris un petit peu de temps, forcément. Mais bien entendu, c'était une période qui était très enrichissante, hein, j'ai envie de dire un peu, vous savez, la citation de Nelson Mandela, hein, c'est soit on gagne, soit on apprend quelque chose. Bon, bah moi, je gagne pas de course, on va dire que j'ai gagné un peu mon pari contre la sédentarité à une époque, contre le poids, etc., que c'était ma plus belle des victoires, de pouvoir courir un marathon pour mes 42 ans, etc. Mais là, j'ai beaucoup appris aussi sur qu'est-ce que ça fait finalement d'être blessé, qu'est-ce que ça fait de reprendre, les leçons que j'en tire en fait un petit peu de tout ça, parce que des fois il y a des petites douleurs dans lesquelles on fait pas attention, etc. Et puis j'ai aussi appris finalement que bah il y a des petites douleurs qui peuvent passer tout simplement en faisant du sport, hein. Par exemple, j'ai eu un diagnostic pendant l'été d'une un pincement lombaire, hein, d'un disque lombaire, et bah c'était, je vous en avais parlé, hein, c'était vraiment la conséquence de la sédentarité. Et depuis que je cours tous les jours, et ben en fait ce problème là a disparu. Alors j'ai toujours un problème avec une sciatique, ça par contre ça a pas bougé, j'ai toujours un problème avec une sciatique qui aurait des causes aussi psychologiques, hein, mais bon, ça c'est encore un détail, j'en ai parlé à ceux qui soutiennent le podcast sur Patreon. Si vous avez des questions là-dessus, on peut l'aborder, mais ça sera pas le sujet d'aujourd'hui parce que ça serait un peu trop long. Mais par contre, sur le pincement lombaire, sur les difficultés que j'ai dans le bas du dos, les lombaires, etc., ben ça, faut dire que ça a disparu. Pourquoi? Ben tout simplement parce que j'ai repris du sport, je cours tous les jours, hein, donc là on est à plus de 150 jours maintenant, et mais j'ai fait gaffe aussi à mon hydratation, à tout un tas de petites choses comme ça. Donc mon défi de courir tous les jours, lui, se porte très très bien. Alors il y a des jours où c'est plus facile de placer, hein, il y a des jours, je vous rappelle que le principe c'est de dire que je vais courir soit 1,6 km, enfin 1 miles en fait, grosso modo, ça c'est pour rentrer dans les classifications des coureurs de tous les jours, mais c'est des plateformes américaines, soit 10 minutes. Donc c'est l'un ou l'autre en fait, hein. En général, c'est l'un et l'autre en même temps. Quand je fais l'un, l'autre est pareil à mon allure. C'est rare que je fasse mon 1,6 km en moins de 10 minutes. Ça a pu m'arriver une fois, un jour où j'étais vraiment très pressé, que quand j'ai regardé la montre, j'ai dit ouh là là, attends, il faut que je rajoute quelques mètres, etc. Surtout quand je le fais sans échauffement, en fait, je veux dire, hein. Si je pars comme ça à la cool, je fais le tour du pâté de maison, ça fait 1,6 km, je suis vraiment dans mon truc, ça fait environ 10-12 minutes, hein, sur l'allure à laquelle je prends, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, cette année aussi, bah, un petit bilan de nouveautés qu'il y a pu avoir, par exemple, nouveau podcast, Sport et Nutrition, lancé avec Apirone, et puis la formation en préparation mentale. Ça, je vous en reparlerai parce que j'ai une question sur le sujet. Donc ça, c'est un bilan, on va dire, sportif global de l'année, et puis un bilan du podcast. Et ben, c'est que je suis très, 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 très content parce que j'ai réussi à faire un épisode chaque semaine. Donc vous avez écouté cette année 52 épisodes. auquel il faut rajouter 21 épisodes de sport et nutrition. Il y en aura même un 22e là dans la semaine qui va arriver. Donc voilà, vous avez eu de quoi, puis un ou deux bonus qui ont pu arriver. Donc on va dire que vous avez eu pas loin, en fait, on va dire avec les bonus, 75 épisodes consacrés au sport et à la nutrition, au mouvement, etc. Et ça, franchement, j'en suis extrêmement fier. Vraiment, c'est une très, 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 très grande fierté. Il n'y a pas eu de coupure comme il y a pu y avoir d'autres années sur l'été ou quoi que ce soit. Là, vraiment, il y a eu toutes les semaines. Et ça, j'en suis vraiment très fier. Je suis aussi très fier des invités que j'ai pu avoir. Il y a eu des invités connus. On va en reparler un petit peu, hein, mais vraiment, il y a eu des invités dont les noms, on les voit dans les magazines, par exemple. Tout à l'heure, j'étais dans une librairie et j'ai vu le nom de Lucille Woodward. Rappelez-vous, j'ai reçu dans un épisode du podcast. Et puis, de nombreux inconnus. Et ça, j'en suis très, très, très fier parce qu'en fait, les inconnus font partie, en fait, vous savez, ce sont tous les épisodes Dernier Ravito, font partie des épisodes qui sont les plus inspirants pour moi comme pour vous, parce que ce sont des modèles accessibles et souvent, en fait, eh ben, on se rend compte que quand ils exposent des problèmes, etc., on n'est pas seul. Et des fois, les gens très connus, ben, ils oublient. Par exemple, si je prenais que des coureurs très connus qui n'ont jamais connu, par exemple, les problèmes de poids, les problèmes de motivation, ou très peu, ou à la marge, ou qui ont une autre vision des choses, etc., ou qui ont toujours couru de leur vie, eh ben, on n'aurait pas les mêmes exemples. Et là, c'est vraiment très important pour moi d'avoir ces exemples-là de personnes qui vivent des choses que l'on peut vivre, nous, que ce soit sur la perte de poids, que ce soit sur la motivation, que ce soit sur les difficultés d'entraînement, que ce soit sur la famille, que ce soit sur plein de choses qui peuvent arriver. Et vraiment, je sais par vos retours que ce sont des épisodes que vous trouvez très inspirants. Il y a même des personnes qui m'ont dit « Oui, les épisodes avec des personnes connues, c'est bien, mais ça me stresse un peu, je me sens moins motivé en fait, hein, tout simplement, ça me complexe un petit peu, alors que les épisodes type dernière vidéo avec des personnes qui nous ressemblent beaucoup sont beaucoup plus inspirants. Et puis vous m'avez dit aussi, on aime beaucoup les épisodes où toi tout seul Bertrand tu parles, et donc j'ai fait un mix dans l'année. J'ai pas fait les comptes de combien j'ai eu d'invités des grands noms, combien j'ai eu d'invités moins connus, et puis combien j'ai eu d'invités moi-même en dans le podcast, mais il y a vraiment une grande partie d'épisodes qui ont été faits avec des invités. Dans Sport et Nutrition, c'est que avec des invités, hein, d'ailleurs. Donc voilà, il y a vraiment sur cet ensemble-là un équilibre que j'essayais de maintenir et que je trouve extrêmement important, même si sur le développement du podcast, il faudrait avoir beaucoup plus d'invités très connus, vraiment très 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 connus. En fait, moi j'aime bien en fait cet esprit communautaire qu'on a avec des gens qui sont membres pour certains du Hamsters Running Club. Et puis je vais même vous dire un truc, c'est que dans l'année qui va venir, ça va continuer puisqu'il y aura le fil rouge, il y aura certains qui vont préparer leur première course, premier marathon, premier truc comme ça, et que je vais inviter d'épisode en épisode pour venir un petit peu témoigner de temps en temps, pour dire un petit peu où ils en sont. Donc ça sera dans la nouveauté de l'année qui va venir. Et puis je suis assez fier aussi d'avoir des sponsors prestigieux cette année, Nike, Adidas, Babel dernièrement, si vous avez les épisodes avec la pub. Mais soyons honnêtes, hein, Nike et Adidas qui viennent sponsoriser moi, le hamster qui pesait 27 kilos de trop il y a quelques temps, qui courait pas, qui était incapable de faire du sport, etc. C'est une sacrée fierté quand même, je dois le dire, de se retrouver comme ça avec ils ont même fait la promotion du podcast sur Spotify, etc. C'est une sacrée fierté, une belle marque de confiance, qui montre aussi que finalement, le côté de « je voudrais devenir sportif pro ma manière, champion du monde de mon monde, etc. » est possible. Ils ont payé une bonne partie de mon salaire là sur la fin de l'année en tout cas, et puis sur une partie de l'année, tous les frais d'hébergement, etc. Un bout d'un moment, ces sponsors-là qui ont pu les payer, même si, je dois le dire, en fait, tous ceux qui ont aidé le podcast sur Patreon, et vous êtes quelques-uns à avoir aidé le podcast sur Patreon, ça représente une somme qui n'est pas négligeable, a permis de payer pas mal de choses aussi, notamment du matériel, payer les noms de domaine, pour le site internet, payer le thème pour le site internet. Il y a toujours des petits frais, il y a toujours des services à louer, vous voyez, des choses comme ça. Et ben ça, j'ai vraiment tenu à ce que ce soit l'argent de Patreon qui aille directement dedans, dans l'investissement directement dedans. Et donc, je vous remercie pour votre soutien. Le Hamsters Running Club se développe bien. Je suis assez fier du développement de la communauté. Alors, en plus, ce qui me rend le plus fier, c'est que moi, je peux disparaître pendant quelques jours et la vie du Hamsters Running Club continue avec des gens qui viennent poser des questions, des interactions, etc. qui se font. Il y a même des choses que moi, je ne vois pas qui ont été lancées par les membres du club, et ça, j'en suis très, 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 très fier. Et puis, je vois qu'il y a des encouragements, qu'il y en a qui mettent des photos, qu'il y a aussi un esprit qui se développe aussi autour de ça, autour de, par exemple, de ceux qui ont créé un podcast, qui en parlent de leur projet sur Instagram, etc., pour parler de leur projet. Ça faisait partie des choses que j'avais écrit dans ma feuille de route, de dire qu'en fait, je pense vraiment sincèrement que le fait de communiquer sur le projet que l'on fait, que ce soit un marathon, que ce soit un trail, que ce soit de la perte de poids, que ce soit courir 5 km ou 10 km, en fait, c'est beaucoup plus motivant et facile de le faire si en fait on en rencontre d'autres personnes, que ce soit par un podcast, soit par un blog, que ce soit par un compte Instagram, un Twitter, ce que vous voulez, ou des vidéos sur YouTube ou quoi que ce soit, à vous de choisir. Mais je trouve en fait que le fait d'en parler autour de soi, et ben en fait ça questionne d'une part pourquoi on le fait, comment on le fait, pourquoi on le fait, ça c'est important. Et puis ça permet de trouver des gens qui viennent nous soutenir en fait, qui viennent dire j'ai vu ça, bravo pour ce que tu fais, t'aurais pas des conseils, etc. Et on se rend compte en fait tout simplement qu'on devient aussi à notre tour des personnes inspirantes. Alors voilà, c'est aussi pour ça que j'y aura une partie dans la prochaine saison sur invité, hein, tout simplement. C'est ça sera un peu leur kilomètre 42 à eux, j'ai envie de dire, sur quelques épisodes pour qu'ils viennent témoigner un petit peu de leur parcours, de leur progression, de ce qu'ils font. Je dois aussi vous remercier pour votre soutien global, dont j'ai parlé de Patreon. Il y a aussi ceux qui ont acheté des produits sur la boutique. Alors la boutique est en cours de refonte, et notamment vous m'avez souvent vu avec un gros hoodie gris bien moultonné, etc. Et je suis au regret de dire que ce produit n'est plus plus disponible, tout simplement parce que le fabricant semble ne plus vouloir faire des hoodies, ou en tout cas ne pas fournir mon fournisseur qui fait le flocage. Donc je ne peux plus les fournir. Donc je cherche un nouveau modèle. Donc voilà, pour ceux qui ont mis des commentaires là-dessus, je vous remercie aussi pour ceux qui ont mis des commentaires sur Apple Podcast, et je vous remercie aussi de mettre une note sur Spotify, parce que la nouveauté, c'est qu'on peut mettre des notes sur Spotify. Donc maintenant, vous pouvez aller sur Spotify et mettre une note au podcast, à tous les podcasts que vous écoutez sur Spotify. Mais bien sûr, n'oubliez pas de le faire pour Kilomètre 42, Sport et Nutrition, et puis même pour Kilomètre 350, qui est en train de se lancer, qui sera sur mon aventure en vélo. Et puis je vous remercie aussi pour votre soutien sur Instagram, les messages que vous pouvez m'envoyer. On a eu beaucoup de discussions sur Instagram, beaucoup de questions. Il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre facilement des fois. Je prends un petit peu de temps pour répondre. J'en suis désolé. Toutes les questions que vous m'avez posées d'ailleurs, là, j'ai pas pu toutes les incorporer dans cet épisode, tout simplement parce qu'il y avait trop de questions. Mais je vous remercie vraiment pour toutes les questions. Et en fait, je les ai gardées en stock pour d'autres épisodes, pour d'autres idées d'épisodes, parce que je pense que c'est vraiment, il y a des sujets qui sont vraiment très 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 pertinents. Et c'est tout l'intérêt d'ailleurs des foires aux questions. Bon, ce petit bilan étant fait, maintenant, ce que je vous propose, en fait, c'est de faire un bilan, en fait, des épisodes les plus écoutés. Parce que j'ai une question qui m'a été posée sur là-dessus. Je crois que c'est Maxence qui me pose la question, qui me dit, moi, je suis nouveau sur le podcast, quels sont les épisodes à écouter, ceux qui ont le mieux marché, etc. Oui, c'est Maxence. Alors, Maxence, pour répondre à ta question, j'ai fait un truc, en fait, c'est que j'ai demandé à ceux sur Instagram notamment, à ceux qui écoutent le podcast, quels étaient leurs épisodes que eux ils ont préférés. J'ai fait une petite stat aussi des épisodes les plus écoutés, et puis moi je vais vous donner les épisodes que j'ai préféré faire, tout simplement. Alors, épisodes les plus écoutés, je vous les donne dans l'ordre du numéro 5, cinquième moins écouté, ou le cinquième le plus écouté, en fait, si vous voulez, au top 1, le top 1 du 1. Et je pense que vous pouvez deviner l'ordre. Bon, j'aurais pu faire un jeu sur Instagram, mais je l'ai pas fait. Alors, le numéro 5 dans le classement, c'est Major Mouvement. Oui, Major Mouvement, c'était un des premiers épisodes de l'année. Je l'avais appelé Père Noël. C'était ma femme qui m'a offert des épisodes avec certains invités, dont Major Mouvement. Et en fait, il arrive en cinquième. Voilà, cinquième des épisodes les plus écoutés. Alors bien sûr, comme c'est un épisode de début janvier, il y a eu plus de chances de vie, etc. Dans ce classement-là des épisodes les plus écoutés, vous n'aurez pas les derniers épisodes les plus récents, même s'ils se sont bien défendus, faut le dire, au niveau stats, ils sont bien défendus. Mais Major Mouvement, voilà, arrive en cinquième. Quatrième, Perrine Fage. C'est un épisode plus récent. Et Perrine, avec ses aventures en vélo, ses aventures Ironman, etc. Enduroman, tout ça, vraiment. Et puis on pourrait dire, Steven Lujari, qui est pas très loin, son compagnon, mais il est pas très 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 loin, mais il n'était pas dans ce top 5, voilà, c'est comme ça. Troisième, débuter et progresser avec Pascal Dapiron. Alors celui-ci, on a fait 3 épisodes avec Pascal Dapiron. Il y a eu un épisode sur le ménisque, mon genou, c'est juste avant l'opération. Il y a eu cet épisode sur débuter, puis il y a eu un épisode sur passer aux longues distances. Ce sont 3 épisodes qui ont marqué un petit peu les esprits. Et celui-là, débuter avec Pascal, a eu beaucoup beaucoup de succès. Notamment une astuce qu'il a donnée, c'est la fameuse foulée des bras. Rappelez-vous, si vous l'avez pas écouté, vous pouvez retourner dans les archives, la foulée des bras, où il a expliqué ça très précisément. Puis il a donné aussi plein de conseils sur l'échauffement, etc. Vraiment, ça, c'est un épisode qui a eu beaucoup de succès en écoute, mais aussi beaucoup de succès aussi dans les retours que vous m'avez fait. Deuxième épisode le plus écouté, c'est Marion Laure Blanchet. Ah, Marion Laure Blanchet, je suis content parce que c'est un épisode local, c'est une voisine ou presque. Vous savez qu'elle a été championne du monde junior, je crois, de triathlon, qui était pro en triathlon, etc. Et même athlète olympique, vraiment, qui est préparatrice mentale, un épisode que j'avais adoré faire, mais vraiment adoré faire en plus. Et je suis vraiment super heureux qu'il arrive là dans le top. Et vous remarquerez d'ailleurs que, et vous allez le voir avec j'ai envie de dire la gagnante, l'épisode le plus écouté, c'est Marine Leleu. Vous remarquerez que dans ce top 5, il y a quand même 3 femmes, alors que pourtant j'en ai pas eu beaucoup beaucoup en invité, mais je vais me rattraper sur 2022, je vais avoir plus de femmes, ça c'est quelque chose que j'ai prévu. Marine Leleu, là elle arrive, et puis je dois le dire aussi, elle s'est largement détachée dans les écoutes, ce qui est un petit peu logique au niveau de sa visibilité sur les réseaux sociaux, des messages. Elle a fait passer des super messages, elle s'est confiée, c'était un épisode qui était génial, etc. On a pris du temps, vraiment, elle avait vraiment pris du temps, elle avait réservé un grand moment. C'était vraiment un super épisode et là aussi c'était un cadeau de ma femme, donc je remercie vraiment ma femme, je remercie bien sûr Marine, je remercie bien entendu toutes les personnes qui ont rendu possible ces épisodes-là, cet épisode-là en particulier, mais tous les épisodes. Vraiment, c'était des chouettes rencontres, vraiment des chouettes rencontres. Maintenant, petit bilan avec vos épisodes préférés à vous. Qu'est-ce que vous m'avez dit, vous ? Alors, je vais vous donner un petit peu, comme ça, ce qui s'est passé. Certains m'ont dit, c'est difficile de choisir. Bon, voilà, d'accord. Puis d'autres m'ont dit, juste merci à toi et à tous tes invités. Et là, je vous remercie parce que ceux qui m'ont mis ce genre de message, bah, ça me va droit au cœur parce que vous savez que le choix des invités, c'est quand même une vraie question. Il y a des invités, d'ailleurs, que je ne veux pas avoir dans le podcast parce que je pense qu'en fait, ils ne seraient pas aussi intéressants qu'on pense. Il y a même des gens que j'ai invités et qui finalement... j'ai un peu un doute, donc j'ai mis un petit peu de temps, je laisse un peu passer les choses, et puis il y a des gens que je veux vraiment avoir, que je n'arrive pas à avoir, et ça c'est un petit peu différent, et puis il y a des gens, vous allez voir bientôt, parce qu'il y en a qui sont déjà calés, où vraiment c'est des bons exemples, etc., mais vraiment le choix des invités, c'est un élément qui est vraiment très important, et qui vraiment pour moi doit me permettre de progresser, mais doit vous permettre de progresser aussi à vous, et ne pas vous écraser, ou pas sans vous sentir écrasé par un exemple de quelqu'un qui vous dit « oui, bah moi j'ai couru 70 km cette semaine, c'est pas grand chose quoi ». Bah si, pour beaucoup de gens, c'est beaucoup. Et donc vraiment, c'est cet esprit-là, je voulais dire, avec du partage, etc., avec des bonnes idées. Par exemple, pour revenir sur Perrine Fage, Steven Lularic, Marion Laure Blanchet, Marine Leleu, ont été très, 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 très didactiques, ont passé plein de jolis messages, etc., qui donnent envie de bouger. Marine Leleu, malgré tout ce qu'elle a fait, elle dit, bah, commencez comme vous êtes, j'ai envie de dire. Marion Laure Blanchet a passé le même type de message, Perrine Fage aussi, et je vous parle même pas de Steven Lularic. Donc, on est vraiment là dans des invités qui ont passé des messages très positifs. Ensuite, il y a eu quelqu'un, il y a eu deux, trois commentaires qui m'ont dit, je vous en lis un, c'est difficile car chaque épisode m'a apporté des idées, des connaissances, de la bienveillance, des claques, des lectures et des découvertes. Là, je suis aussi très très fier de ce type de commentaires parce que vraiment, c'est ce que je vous amenais en fait. J'ai envie de dire que ça doit amener aussi des claques. Oui, il y a eu des claques. Franchement, il y a eu des claques et je vais en reparler. Mais il y a aussi la bienveillance. Vous savez que c'est un mot qui est important, mais qui est des fois un petit peu galvaudé, mais qui est pour moi très 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 important. Et surtout, en fait, les lectures, c'est-à-dire que ben, j'ai bien aimé aller chercher le traducteur du livre, vous savez, sur Cours à pieds nus, certains auteurs, certaines personnes qui ont écrit des bouquins, etc. Ça, c'est un élément important, des découvertes. Et puis aussi s'ouvrir sur des pratiques qu'on n'a pas l'habitude, sur des sports qu'on n'aurait pas l'habitude, etc. aussi. Ça, c'est un élément qui va être très important pour moi dans mon esprit, qui est toujours très important, qui me permet aussi d'ouvrir un petit peu les choses, ouvrir aussi les formes de mouvement qu'on peut avoir. Il y a eu des invités qui n'étaient pas des coureurs à pied, mais qui nous ont ouvert sur de nouvelles choses, sur la respiration, sur l'apnée, sur la concentration, sur la motivation, etc. Et ça, c'est vraiment très important. Et puis ensuite, bien sûr, vous avez eu vos chouchous. Hein, vous avez vu vos chouchous. Alors je dois dire quand même que dans vos chouchous, il y a un certain Iliès. Alors Iliès, oui, c'était un peu vos chouchous. Là, faut le dire. Il a été cité plusieurs fois, même s'il m'a pas laissé en placer une. Vous avez adoré cet épisode. Vous avez adoré l'esprit d'Iliès. Nadir aussi, que vous avez beaucoup aimé. Runner Life. Nadir a été cité plusieurs fois. Runner Life, qui est un épisode tout récent, a vraiment aussi marqué les esprits. Hein, vraiment, Runner Life 35. C'est l'épisode en plus le plus long de tous. Et puis un épisode qui était assez long aussi et récent aussi, Mehdi. Ah là là, ces exemples-là vraiment étaient parlants parce que eh ben finalement, je le redis, c'est des épisodes Dernier Ravito avec des gens qui nous semblent tout à fait normaux. Bon, bon bien sûr, Runner Life qui court en tutu, bon, on peut se poser la question si nous on le ferait ou pas, mais je veux dire que le parcours de Nadir qui perd du poids, qui retrouve, moi j'ai l'impression qu'il a perdu 10 ans le sourire et qu'il avait retrouvé un sourire totalement différent, mais qui avait aussi changé de métier, etc. Mehdi et son sourire et sa préparation un petit peu à l'arrache, mais qui est capable de courir un 24 heures. Bah ça vraiment ça a beaucoup parlé. Et puis il y a un épisode qui a aussi beaucoup marqué les esprits. Sébastien me cite, j'ai beaucoup apprécié celui de Jean-Yves. Oui, Jean-Yves qui a perdu 60 kilos. Ah là là, là vraiment la grande claque, et pas que la claque sur la perte de poids, mais aussi la claque sur un problème qu'il a abordé, notamment c'est le coût du matériel, le coût des dossards. J'ai vu un commentaire de quelqu'un qui m'a dit, j'avais jamais réfléchi à cette histoire-là, que bah, un dossard à 100, 110 euros, 120 euros, et ben c'est pas si simple que ça. Changer de paire de baskets tous les 500 km, c'est pas si simple que ça. Le matériel peut coûter cher, etc. On dit que pour courir, il suffit d'une paire de baskets, d'un short et d'un t-shirt, mais en fait, on se rend compte que non. Les cardio, etc., c'est une vraie question. Et puis, là, en fait, maintenant que je m'intéresse au vélo, c'est encore pire. Vraiment encore pire. Ensuite, j'ai eu d'autres personnes qui m'ont fait des petits tiercés, un petit peu. Par exemple, on m'a cité, Hélène me dit Marine Leleu, Lucille Woodward, Églantine Chéneau. Ah, Églantine Chéneau, SABD, sur le marathon de Paris. Thibaut Rigaudot. Ah oui, alors là, vous savez, triathlète malvoyant olympique, paralympique. Vraiment, lui aussi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de commentaires sur cet épisode-là. Vraiment des chouettes retours. Bon, après, on m'a redit Iliès. Voilà, Iliès revient régulièrement. Et puis, j'ai eu aussi mon épisode sur la motivation, qui a un peu marqué les esprits. L'épisode avec Philippe Molimar et ses 40 marathons, ou 42, comme il en est maintenant, Tintin Runner avant le marathon de Paris, vraiment fait partie aussi des épisodes où j'ai eu quelques retours. Et puis encore Jean-Yves, par exemple, qui a été recité plusieurs fois. Et puis, Catherine me dit, l'épisode d'avec Pascal Dapiron et la série d'épisodes avec lui qui a été super instructive. Là, c'est vraiment le genre de commentaires que j'ai reçu. Vraiment, vous avez appris des trucs vraiment importants. Et c'est vrai que Pascal, il est entraîneur, il est didactique et il explique vraiment bien les choses et vraiment son histoire de, je le répète, hein, son histoire de foulée des bras, de mouvement des bras, etc. C'est vraiment un élément qu'il a vraiment, vraiment cité, sur lequel il a vraiment insisté. Et puis, il a été aussi très convaincant sur cette histoire de courir 24 heures, de comment on passe sur des longues distances. Et le fait que de courir un 24 heures sur une boucle, on n'a pas de logistique à gérer, est un élément, et Mehdi en avait reparlé, qui permet de passer à l'ultra d'une manière très simple. Enfin, très simple. Faut quand même courir 24 heures, mais encore qu'on n'est même pas obligé de courir 24 heures. Il y a le départ, il y a l'arrivée, et entre temps, Mehdi l'avait dit, il avait dormi, il a pris une douche, etc. Et ensuite, dernier commentaire qui m'a été remonté là-dessus, deux épisodes très inspirantes, hein, je dis, deux filles, Églantine et Chéneau et Marine Leleu, bah oui, très inspirante, oui, de manière différente. Moi, Églantine, j'adore sa créativité, j'adore sa manière de raconter les choses. Marine Leleu, j'adore aussi comment elle raconte les choses. Elles ont deux pratiques sportives qui sont totalement différentes. Elles ont deux pratiques créatives différentes. Marine Leleu est une créatrice de contenu avec des vidéos, etc. Églantine est plus discrète sur les réseaux sociaux, mais elle a un talent de raconter des histoires avec son crayon, etc. Il en avait parlé de beaucoup de sujets. C'était vraiment un épisode qui était super agréable, qui fait partie de mes épisodes favoris, je dois vous le dire, parce que maintenant je viens à mes épisodes préférés, et dans mes épisodes préférés, oui, il y a celui avec Églantine Chéneau, je dois le dire. J'y suis allé avec un peu un esprit fan de sa BD, et puis on avait couru le même marathon, et puis je me suis reconnu dans la BD, même si c'était pas moi dont elle parlait directement, mais en fait un des personnages correspond un petit peu à mon parcours, à mon portrait, etc. Et donc ça, c'était vraiment un aspect que j'ai adoré. Ensuite, je dois le dire, Phil Billard et Phil Ufo, lui, a marqué les esprits. Et puis, il a marqué aussi un tournant un petit peu dans le podcast, parce que derrière, il y a eu des invités. Par exemple, et encore, il y en a un qu'on n'a pas réussi à caler, mais vous voyez, des gens comme Iliès, par exemple, et puis Mehdi, puis Nadir, etc. Tout ce cheminement-là, en fait, vient un petit peu de Phil. Pourquoi ? Parce que Phil, en fait, quand je découvre, moi, je cherche un petit peu le... comment devenir un super héros avec l'entraînement, et j'en trouve lui qui fait ça. Je découvre ce personnage là que j'adore, qui a une philosophie en plus de l'abandon, qui a une philosophie de la course, qui a une philosophie de, vous savez, ce vieillard qui doit être vieillard galopant, cette idée là qu'il a développée, qui est vraiment super forte et qui est parlante pour moi. Et en fait, derrière, il y a des en le suivant, je découvre Iliès et leurs projets, je découvre d'autres personnes qui sont reliées à tout ça. Lui, il est capable de découvrir d'autres personnes, il y a des personnes qui viennent lui mettre des commentaires, et puis on se rend compte en fait que d'autres gens le citent régulièrement, il remonte. Et vraiment, moi, il m'a beaucoup inspiré cette année, et vraiment, je le remercie pour cet épisode qui était vraiment un super épisode. Ensuite, Thierry Chalandre, vous rappelez, c'est un épisode très récent, mourant, hein, du cancer, vraiment, et qui a fait un UTMB en étant déjà malade, qui se voit, qui sent que son corps part, qui se dit, ça y est, j'ai vécu ma belle vie, je suis prêt à mourir, et qui finalement, revit, qui a des projets, et qui recourt en UTMB, Diagonale des Fous, etc. Et là, on parle de claque, hein. Une sacrée claque, franchement. J'en ai les poils. Franchement, je le dis, j'en ai les poils. C'était un épisode incroyable, quoi. Sur le message qu'il a fait passer quand j'avais fini d'enregistrer. Et là encore, j'ai une petite larme à l'œil parce que je me dis, oh, punaise, mais quel message il nous a passé ce jour-là, quoi. Vraiment incroyable. Jean-Yves, quel message aussi nous a passé Jean-Yves. Ce témoignage, et puis je vous le dis parce que Jean-Yves, quand vous le suivez, quand vous regardez un petit peu, il avait dit qu'il faisait des courses, etc. Et vraiment, il est dans son truc. Et puis d'aller jusqu'au marathon, etc. C'est tellement chouette de voir ça par rapport à ce qu'il raconte l'épisode, ce qu'il raconte sa perte de poids, son parcours, etc. De voir comment il s'est transformé vraiment. Et moi, j'avais adoré cet épisode. Une belle discussion. J'ai vraiment adoré cet épisode-là. Un autre épisode que j'ai adoré. En fait, il est double. C'est un épisode double un petit peu. C'est Lilian Doza. On avait fait un premier épisode dans Sport et Nutrition et un deuxième épisode dans Kilomètre 42. Dans Sport et Nutrition, on avait parlé des bords de traverser l'Atlantique, des poissons volants, de ce qu'ils avaient mangé pour traverser l'Atlantique à la rame, et de micro-aventures. Et dans Kilomètre 42, on a parlé de stoïcisme, de philosophie. Et je dois remercier Lilian parce que, en fait, il m'a ouvert un nouvel univers avec des personnes, avec des défis, avec une vision, une philosophie, d'autres personnes qui suivent. Par exemple, il y a eu des épisodes qui ont été un petit peu par le biais de des gens qui suivent, de regarder un petit peu où l'aller. Des auteurs aussi, par exemple, je dois citer, on avait parlé de Alistair Humphreys, qui est le père de la micro-aventure qu'il avait cité. Et en fait, Alistair, il s'est passé un truc, c'est que j'ai acheté quasiment tous ses bouquins, là, parmi plein de ses bouquins, notamment sur comment il raconte un petit peu ça. Et dans son parcours, dans ce qu'il fait, dans sa manière de créer ses bouquins, de faire du podcast, etc., je reconnais des témoignages, je suis allé m'inspirer de ce qu'il fait, etc., de la notion de micro-aventure me parle beaucoup. Et vraiment, Lilian, pour moi, ça fait vraiment partie d'une rencontre, mais vraiment incroyable, et avec lequel il y aura pas probablement peut-être pas d'autres épisodes avec lui, mais autour du Amsterdam Running Club, on a commencé à discuter d'autres choses et que vraiment je voudrais développer, en tout cas moi par rapport à mes activités, autour plutôt de la préparation, de coaching, d'entraînement, d'accompagnement, etc. Je peux pas appeler ça du coaching, on va plutôt appeler ça de l'accompagnement, du conseil. J'ai des petites choses avec lesquelles j'ai commencé à discuter avec Lilian parce que je pense que sa philosophie de sport, de son application qu'il a créée, etc., c'est vraiment génial, quoi. Et puis j'ai un petit faible pour un de mes épisodes préférés. Je dois le dire, il y en a deux. Il y a par exemple l'épisode pour Adidas. C'est un épisode dans lequel on avait parlé de la foulée. J'ai eu beaucoup, beaucoup de questions sur la foulée, le changement de foulée, le drop, etc. Qui est un épisode, en fait, vous savez, vraiment, c'est un épisode, bien sûr, Adidas, il y a les chaussures, le test des chaussures, etc. dedans. Mais en fait, il y a un épisode, c'est un épisode qui a beaucoup de valeur sur le plan des informations sur la foulée, le changement de foulée, sur le renforcement du pied, etc. J'avais raconté beaucoup, beaucoup de choses sur mon parcours aussi minimaliste, la difficulté, le mix des chaussures, etc. Ça, c'est quelque chose que m'avait apporté, par exemple, Pascal, d'Apiron, où il avait parlé de mixer les chaussures. Et, j'avais appliqué déjà des conseils par rapport à ça et ça m'a beaucoup marqué. Donc cet épisode Adidas est vraiment je trouve que pour voir que c'est pas un épisode publicitaire, en fait c'est vraiment un épisode dans lequel j'ai mis beaucoup beaucoup de contenu dedans. Si vous l'avez pas écouté, il y a beaucoup de choses. Et puis les accords Toltec. Et les accords Toltec, c'est mon chouchou. Les accords Toltec du coureur. L'autre jour, j'ai une question, je répondrai pas directement à la question là ce soir, mais sur un petit peu finalement le syndrome de l'imposteur par rapport est-ce que vous savez, dans la première saison du podcast, je disais, je me sentais un peu pas athlète. Je pouvais pas me dire que j'étais un athlète, un champion ou quoi que ce soit. C'est vraiment un syndrome de l'imposteur, du coureur, en fait. Je suis pas un coureur, je suis un imposteur, etc. Je dis souvent que ce podcast est le podcast d'un imposteur, un petit peu dans le monde de la course à pied. Je dis dans mes formations autour du podcasting, etc., que normalement, on s'attendrait à ce que ce soit des entraîneurs, des champions qui créent des podcasts autour de la course à pied. Et en fait, le fait que ce soit quelqu'un comme moi qui commence la course à pied, qui crée un podcast sur la course à pied, ça faisait un peu imposteur. Et en fait, c'est quelque chose que vous m'avez beaucoup remonté. Et les réponses sont beaucoup dans les accords Toltec. Donc je vous encourage à relire les accords Toltec. Parce que les accords Toltec, en fait, il y a ce qu'on pense des autres, mais surtout ce qu'on pense de soi. Ne pas se dire du mal de soi-même, par exemple. Ça fait partie des accords Toltec. Et c'est quelque chose qui, je pense, en tant que coureur, est extrêmement important. Bon, bah cette première partie d'épisode est terminée, hein. C'était un bon bilan avec les épisodes, etc. Ça permet de faire une petite rétrospective. Maintenant, je vais venir à vos questions. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre au maximum à vos questions, mais j'en ai un bon paquet. Alors, il y en a certaines qui seront des réponses un peu plus courtes, et puis d'autres qui mériteront des réponses un peu plus longues. Je n'ai préparé aucune réponse. J'ai juste fait la liste des questions, mais j'ai un petit peu, comme ça, en tête, bien entendu, où je vais, bien entendu, pour, parce que c'est logique. Ben, voilà, c'est, en refaisant la liste des questions, j'ai des bouts de réponses, bien entendu, qui me reviennent en tête. Je vois à peu près de quoi on peut parler. La première question qui m'avait été posée par Damien, c'est le bilan de courir tous les jours. Alors, j'ai un petit peu dit hein, dans l'intro, le fait de courir tous les jours, pour moi, correspondait à une logique. J'ai fait un épisode spécifique sur les 100 jours de courir tous les jours. Mon avis n'a pas trop changé depuis, même si les conditions climatiques se rendent les choses plus compliquées, parce que je suis obligé de courir des fois de nuit, tôt le matin, tard le soir. Par exemple, le 25 décembre, j'ai couru à 19h20 pour éliminer les repas de Noël, mais j'ai fait que 3 km. Je pouvais pas le faire avant, etc. Donc il y a des moments, et puis il y a des moments où je vais courir très tôt, il y a des moments où je vais courir plus tard, il y a des moments où je peux courir dans la journée. Bon, voilà. Le principe, je vous rappelle, de courir tous les jours, c'est 10 minutes ou 1 miles. Enfin, et 1 miles, quoi. Enfin, voilà. Grosso modo, c'est courir au moins 10 minutes et 1 miles. Souvent, c'est 10 minutes et 1 miles. Mais en fait, c'est souvent 2, 3 km, 5 km. Il y a des semaines où j'ai fait 50 km, il y a des semaines où j'en ai fait 30, il y a des semaines où j'en ai fait 25, 36, 40, etc. Le bilan de tout ça, en fait, c'est que déjà, je me pose pas la question de savoir si je dois courir tel ou tel jour, c'est que je vais courir tous les jours. Ça, c'est déjà le premier point. Et ça, franchement, c'est devenu une vraie habitude. Je suis à 150 et quelques jours, hein, 153 peut-être. Donc là, c'est vraiment devenu une vraie habitude. Hein. Ça fait 5 mois maintenant, 5 mois le 26 décembre, que je fais ça. Et c'est vraiment devenu une habitude, je me pose même plus la question. Il y a même des jours où, alors au début, par exemple, j'enfilais, je me changeais même pas. J'étais en short, t-shirt coton, vous voyez, en me disant, bah tiens, je vais faire le tour du pâté de maison, ça va me prendre 20 minutes à faire. J'enfile juste, j'ai même fait pieds nus, par exemple. Pour vous dire, le jour du réveillon de Noël, le 24 décembre, j'ai fait une séance en sandales, et puis au bout d'un moment, j'en avais marre, j'ai posé les sandales, j'ai couru pieds nus sur les chemins le 24 décembre, les pieds dans la gadoue, oh là là, quel bonheur. Bon, bah ça, c'est des trucs que je faisais pas avant, et le fait de courir tous les jours, bah, en fait, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que déjà, faire une séance de 3, 4, 5 km, c'est pas quelque chose qui me fatigue, c'est pas quelque chose qui est fatigant, je les fais pas à grande vitesse. Par contre, il y a des fois où j'ai voulu faire de la VMA, faire des séances avec plus de vitesse, et donc là, bien sûr, il y a de la récupération, et le principe, en fait, vraiment, c'est de dire que je vais vraiment faire des séances en endurance mentale, 70% d'endurance mentale, et puis faire un petit peu de vitesse, et puis faire un petit peu de séance de côte. Moi, j'ai la chance d'habiter en Auvergne et j'ai toujours des côtes. J'ai toujours du dénivelé. Je n'ai aucune séance de plat. La seule séance de plat que j'ai fait, c'était pour faire un test de VMA, un test de 5 km aussi. Et même là, la piste, elle est pas plate. Il y a un virage, il y a un faux plat et tout, parce que j'ai pas accès à la piste d'athlétisme. Je cours plus en club hein, cette année pour des histoires par rapport au virus, par rapport aux fermetures, est-ce que ça va ouvrir, fermer, etc. Cette année, j'ai pas pris ma licence. Je vous l'ai pas dit aussi, mais cette année, je n'ai porté aucun dossard. Je n'ai eu aucun dossard officiel. Donc le dossard, la licence, c'était pratique aussi par rapport au dossard. C'est une année sans dossard. L'année 2022, pour moi, pour l'instant, j'ai pas planifié de course, à part 2-3 trucs dont je vais vous parler, mais je peux probablement me passer d'un dossard. Donc, pour l'instant, le bilan de courir tous les jours, en fait, c'est vraiment de dire que j'essaye de mixer un petit peu les terrains, j'essaye de mixer le type d'entraînement. Il y a des sorties longues, il y a des sorties, par exemple, il y a un jour, j'ai fait 20 km pour aller boire un café. Deux jours, je vais faire 3 km. Il y a des jours, j'ai fait 2 km 6. Je crois que le minimum que j'ai fait, c'est autour de 2 km 6. Peut-être un jour 2 km, mais vraiment, c'est très rare. Voilà, souvent c'est 3, 4 km, des fois 5, des fois 6, 7. Il y a un truc que je fais pas, c'est de... Je ne cherche pas à arrondir. Quand je suis à 4,90, je vais pas monter à 5 volontairement. Parce que le fait de courir tous les jours, en fait que, grosso modo, je me dis, l'important c'est de courir tous les jours. On avait parlé avec Mehdi, je crois, dans l'épisode avec Mehdi. Donc ça, c'est un point important. Je l'ai dit, quand je mettais mes courir tous les jours, j'avais des douleurs intenses sur les jambes. Manque de vitamine D, j'avais ma pincement lombaire qui me faisait vraiment très mal au dos. Ces douleurs de dos ont disparu, j'ai juste une sciatique qui, elle, n'a pas disparu. On cherche un petit peu les causes, etc. Et ça viendrait aussi de raisons psychologiques qui viennent en fait un petit peu des choses que vous avez entendues dans le podcast, notamment sur le manque de confiance en moi sur certaines choses. Et c'est quelque chose que je vais travailler. Et notamment, vous allez comprendre aussi pourquoi je me suis dirigé vers la préparation mentale. C'est un élément qui est important pour moi. Et pourquoi il y a certains défis dans lesquels je me lance qui vont me permettre de travailler ça aussi. Donc le bilan de coureur tous les jours pour moi il est extrêmement positif. Je dis pas que c'est facile tous les jours, il y a des jours où je me suis même demandé si j'arriverais à le faire. Par exemple il y a un jour je suis allé courir à 21h30 je crois, un autre jour à 22h. Voilà, ça peut arriver. Souvent en fait ce que je fais c'est que je planifie en début de semaine le dimanche, je planifie en fait les moments où je vais courir. Par exemple il y a des rituels. Le vendredi matin, c'est je vais boire un café au marché. J'amène ma fille à l'école, je vais boire un café au marché. Le mercredi, elle va au yoga. Ben, pendant qu'elle est au yoga, je l'amène au yoga. Et puis moi, pendant ce temps-là, je cours dans le coin. Il y a une belle coulée verte, etc. Le mardi, c'est plutôt la fin de matinée. Le lundi, c'est plutôt aussi sur la pause déjeuner. Vous voyez, il y a des moments comme ça, des petits moments que je réserve. Là où ça devient plus compliqué, ben, c'est quand c'est les vacances, par exemple. Quand Camille est à la maison, avec ma femme, on travaille tous les deux à la maison, donc il y a un rythme à trouver, une organisation à trouver. Et puis là, aussi, ce qui perturbe aussi un petit peu, c'est la chasse. Voilà, l'autre jour, je me suis dit, je vais aller courir sur les chemins, j'ai pas envie de trop faire de route, et bien, il y avait des coups de feu à 7h du matin, donc j'ai dû changer de plan. Enfin voilà, il y a des petits trucs comme ça qui sont un petit peu, des fois, un petit peu embêtants. Voilà, ça fait partie des choses comme ça. Mais en fait, courir tous les jours est vraiment devenu une habitude. Et c'est vraiment pour moi, hein, ça rentre un petit peu. C'est en fait, avec le nombre de podcasts que j'ai et le fait de et la course, en fait, j'en suis à un stade où je crée des podcasts, je crée du contenu et je cours tous les jours. C'est mon identité en fait, un petit peu. Voilà, donc ça c'est un élément qui est important. Ensuite j'ai eu deux questions un peu plus techniques qui m'ont été posées. Quelqu'un qui me dit je reprends 10 km, alors il s'appelle Cal, il dit je reprends 10 km hier et je suis HS Today, voilà, hors service Today. Comment on gère les douleurs le lendemain? Bon, j'ai envie de dire, si tu reprends la course et que tu commences par un 10 km, déjà chapeau, parce que moi quand j'ai repris la course, faire un 10 km et tous les invités que j'ai eu, il n'y en a aucun qui m'a dit qu'il a fait 10 km facilement comme ça. J'ai même vu un témoignage d'un coureur de très haut niveau qui gagne des courses, qui disait que quand il s'est remis à la course, il a mis longtemps avant d'arriver à courir 10 km, donc voilà, bravo. Mais après, bien sûr, c'est normal que tu sois HS le lendemain, que tu aies des douleurs, des courbatures, etc. C'est totalement logique. C'est-à-dire que quand on passe de 0 à 10 comme ça, notre corps, en fait, eh ben, on a cassé de la fibre, il faut qu'il reconstruise des choses. Et les douleurs, ben, ça montre juste que le corps est en train de reconstruire des choses. La courbature, elle est là pour ça. Et ce qu'il faut faire attention, c'est ne pas se blesser dans ces cadres-là. C'est, par exemple, il y a combien de personnes m'ont dit qu'ils se sont fait mal au soccer? Vous savez, c'est des noms de trucs. Dire oui, j'ai joué au foot dans ma jeunesse. Ça fait un moment que je vais pas faire un foot, je vais faire un soccer. Il y a des mouvements dans tous les sens, des terrains synthétiques, etc. On court un peu comme des dératés, on déconne avec les copains et bam, tac, une cheville, une petite douleur aux ischios ou je sais pas quoi. Souvent, il y a des trucs comme ça. On pourrait le dire avec le rugby, on pourrait le dire avec le truc, mais avec le soccer, c'est vrai que c'est un cas qu'on m'a souvent cité. Donc, il faut faire attention quand même quand on reprend de dire il faut de la progressivité. Et en fait, les douleurs, bah, qu'est-ce qui se passe? Elles sont le témoin qu'il y a quelque chose qui se passe dans le corps, qu'il y a de l'adaptation qui se crée. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on court, ben, le corps, on va lui montrer qu'on veut faire quelque chose. S'il est capable de le faire, pas de souci. S'il est pas capable de le faire, il va falloir qu'il adapte le corps, qu'il va s'adapter, en fait, pour arriver à le faire. Et les douleurs, ben, montrent qu'en fait, il a besoin d'un temps d'adaptation pour construire un muscle qui est plus fort, etc. Comment on les gère, les douleurs? Certains pourraient dire, eh ben, on fait des étirements, on travaille la souplesse, etc. Oui. Moi, j'ai envie de dire quand même que le meilleur moyen, c'est de faire attention à la progressivité. J'avais parlé du stress mécanique dans un vieux épisode. Mais on va en reparler bientôt. Si j'ai un invité, peut-être qu'on arrivera à caler, on parlera de ce sujet-là. Mais le stress mécanique, la quantification du stress mécanique, c'est important. C'est-à-dire, c'est comment dans sa progression, on fait attention à pas casser le corps et comment finalement on progresse petit à petit. Et c'est ma règle des 10%. C'est de dire, bah, quand j'ai couru 5 km un jour, je rajoute 10% le lendemain, la fois d'après, ça fait 5-5. Qu'on essaye de tenir comme ça au plus. Alors, je vous le dis, sur les mois qui viennent, il y a le mois de janvier, je vais pas le tenir cette règle-là, parce que je me rends dans un défi qui est vraiment particulier, on a déjà parlé dans des épisodes précédents, mais en règle, ma règle générale, et d'ailleurs dans le bilan de coureur tous les jours, c'est aussi ça, hein, c'est-à-dire que de semaine en semaine, pour éviter de casser le corps, j'avais une progression. Si j'avais fait 40 km une semaine, je rajoutais 10% maximum la semaine d'après, et en fait j'avais un cycle, c'est ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai un cycle de 3 semaines plus une semaine, c'est-à-dire que c'est 3 semaines de progression plus une semaine de repos. qui marchera pas au mois de janvier, je vais y revenir. Mais c'est 3 semaines de progression en charge d'entraînement, ça veut pas dire en kilométrage, mais en charge d'entraînement, et là je fais bien une distinction qui est importante entre la charge et le kilométrage, parce que si vous faites 10 km à vitesse endurance mentale, ou si vous faites 10 km en vitesse rapide, c'est pas du tout la même charge d'entraînement en fait. Il faudrait arriver à le quantifier, je ferai un jour un petit contenu spécifique là-dessus. On pourrait dire qu'en fait vous pourriez faire des maths, c'est-à-dire de prendre une échelle, vous savez, de 1 à 10 de la douleur, enfin de la difficulté, 0 facile, 10 c'est très difficile, et de noter chaque séance de 0 à 10, et ensuite de multiplier ce chiffre-là par le kilométrage que vous avez fait. Et donc par exemple une séance de vitesse de 10 km qui est facile, qui est dure, et que vous notez 9 sur 10, ferait 90 points, et une séance de 10 km que vous faites en endurance mentale qui vous fatigue pas beaucoup et que vous notez par exemple à 2 sur 10, ben en fait 2 fois 10 ça fait 20, et donc vous comprenez bien que la charge d'entraînement à 20 est plus légère que la charge d'entraînement à 90. Ceux qui ont Strava, qui ont des statistiques sur Strava, etc., vous allez comprendre un petit peu leur charge d'entraînement, comment on pourrait le faire. Je ferai un épisode spécifique dessus ou des vidéos spécifiques dessus pour bien vous expliquer ça. Et donc cette histoire de charge d'entraînement, eh ben c'est de pas l'augmenter trop rapidement, de faire attention comment on la gère, et c'est comme ça que les douleurs disparaissent petit à petit. Mais s'il y a des douleurs, ben tout simplement des courbatures, ça signifie que le corps a besoin de s'adapter. Et on pourrait dire qu'il y a les douches froides, mais j'en suis pas super convaincu. On pourrait dire qu'il y a les pistolets qui font petit tic tic. On pourrait dire qu'il y a les comment ça s'appelle, les trucs électriques, là, les électrodes, etc. Bien sûr que tout ça, ça aide. Mais ça, j'ai envie de dire que c'est ce qui va améliorer la récupération. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est ne pas surcharger le corps. Il faut vraiment faire attention à ce stress mécanique. Une autre question qui m'a été posée, ben tiens, c'est Jean-Yves d'ailleurs. Attends, je peux le dire. Je suis blessé et j'ai une envie folle de courir. Vous vous rendez compte, Jean-Yves, hein, qui courait pas il y a quelques temps. Maintenant, il a une envie folle de courir. Quoi faire, hein, ou ne pas faire? C'est à devenir dingue quand même. Oui, Jean-Yves, c'est à devenir dingue. Effectivement, quand on ne peut pas courir, on devient dingue. Bah oui, et en fait, c'est hormonal cette histoire-là. C'est-à-dire que si vous courez tous les jours, à un moment donné, vous sécrétez des hormones du bonheur, etc. Et quand vous arrêtez et vous les sécrétez plus, et ben vous rentrez en dépression, potentiellement vous rentrez en dépression. C'est analysé, le fameux blues post-marathon. Le simple fait d'arrêter pendant 4 ou 5 jours de courir peut vous créer une sorte de manque, vous devenez en manque de course, et en fait c'est une question d'hormones, parce que notre corps il génère des hormones. Alors à quoi servent ces hormones-là? Peut-être quand on était des hommes, des chasseurs-cueilleurs, c'était pour qu'on puisse courir plus facilement pour aller chercher des proies et que ça soit plus agréable à faire. Je ne sais pas pourquoi ça servait vraiment. Il y aurait des recherches à faire. Je ne sais pas s'ils le savent vraiment, mais on pourrait émettre cette hypothèse-là. Et en fait, quand vous courez régulièrement, moi tous les jours, mais vous pouvez courir, si vous faites 3 ou 4 entraînements par semaine, c'est le cas, à chaque fois vous générez un certain niveau d'hormones, etc. Si vous arrêtez de courir, et peut-être vous en êtes rendu compte quand vous faites votre pause annuel, hein, si vous faites une petite pause annuelle, vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un moment, vous commencez à faire un petit peu de chafouin, bah tout simplement parce que ces fameuses hormones, hein, on parle des endorphines, etc., disparaissent, et donc vous êtes en situation de manque. Quoi faire? Ben prendre son mal en patience quand t'es blessé, hein, faire attention aux exercices, aller voir son kiné, hein, on en avait parlé avec l'épisode avec Runner Life 35 justement. Avec Damien, on disait l'importance du kiné, etc. Si le kiné dit attention, faut pas courir. Mais tu peux faire ça, ben faire attention à ça. Donc quoi faire? Écouter son kiné, quitter les médecins, etc. Ne pas faire, reprendre trop vite, reprendre trop fort. C'est ce qui m'était arrivé notamment après le premier confinement, où j'ai pas couru pendant toute la durée du confinement. Moi j'avais pas fait l'histoire du 1 km, etc. J'avais repris. Et puis au bout de 2-3 jours, j'ai voulu faire 2-3 accélérations et j'avais commencé à avoir une douleur assez importante dans le mollet, etc. Et donc ça m'avait contraint d'arrêter, de reprendre, etc. Et un truc vraiment, et je le dis vraiment, que faire, quand on reprend, c'est de reprendre avec une reprise progressive de la course en alternance avec la marche. Moi, c'est le programme de la clinique du coureur, ça marche systématiquement, c'est ce que j'ai fait notamment après ma périostite, c'est ce que j'ai fait après mon opération du ménisque, c'est vraiment, et c'est ce que j'aurais fait, c'est ce que j'avais fait l'an dernier aussi après ma pause annuelle, c'est-à-dire de faire des séances où il y a d'abord de la marche, 5 minutes de marche, et puis ensuite c'est l'alternance entre de la course et de la marche, à petite foulée, et au début bah, c'est 6 fois 1 minute, et puis après 10 fois 1 minute, et puis après c'est 10 fois 2 minutes, etc., jusqu'à arriver à courir 2 fois 15, et puis 1 fois 30, et puis 45, et puis 1 heure, etc. Mais ça prend sur 2-3 semaines, et puis si on a été blessé, peut-être sur 4 à 5 semaines, voire 6 semaines selon les programmes. Mais vraiment, c'est de reprendre progressivement. De toute façon, je veux dire un truc, j'arrive, et je le dis à tout le monde, c'est que quand on se blesse, et c'est ce que j'ai vraiment appris cette année, c'est là où on régresse. Le but du jeu, c'est que maintenant que t'es blessé, bon là c'est une cheville, une entorse, je crois, quelque chose comme ça, le but du jeu pour toi, ce n'est pas de courir le plus vite possible, de reprendre le plus vite possible, c'est de reprendre le mieux possible pour ne plus te reblesser derrière, pour reprendre ta progression. Donc le but vraiment, c'est de reprendre petit à petit pour pouvoir ne plus être blessé derrière. Et donc c'est là où si le kiné t'a donné des exercices de renforcement, de proprioception, de renforcement des chevilles, de gainage du pied, de tout un tas de choses comme ça, enfin je sais pas si on peut appeler ça du gainage du pied, mais vous voyez, monter sur les pointes des pieds, faire des marches, protocole de Stanish et compagnie, et ben ça, faut le faire. Hein. Je fais un petit clin d'œil à, comment il s'appelle, à Mathieu, qui fait un exercice que j'ai donné, vous savez, c'est se mettre sur la pointe des pieds et redescendre, mais de pas le faire seulement 5 ou 6 fois, de le faire 100 fois tous les matins. La première fois, au début, ça commence à vous chauffer un petit peu, puis après, vous vous rendez compte que vous renforcez vraiment vos jambes, vous renforcez vos pieds. Je pourrais dire aussi de marcher pieds nus, fait partie des choses qui sont importantes, et il y a des petits exercices comme ça. J'en ai parlé sur mon compte Instagram pendant le premier confinement, je crois que j'ai mis des exercices, je pourrais vous les remettre. Hein. Je retrouverai le lien, je vous referai une vidéo un peu plus propre pour vous montrer un petit peu ce que je vous propose dans ce domaine-là. Puis dans le hamster Tony Club, je mettrai aussi la vidéo avec des vidéos un peu plus détaillées, comme ça, ça vous donne une raison supplémentaire de venir rejoindre le hamster Tony Club, qui est gratuit pour l'instant, mais qui resterait gratuit, mais qui petit à petit va aussi gagner quelques fonctionnalités un peu payantes. Donc ensuite, une question de Stéphane. Comment te sens-tu actuellement? Alors, comment je me sens actuellement? Bon, bah là, vous voyez, c'est la période, c'est l'hiver. Et moi, l'hiver, là, l'automne, c'est la période où l'énergie. Rappelez-vous, l'an dernier, j'ai fait un épisode sur la pause annuelle, un peu. On m'avait dit, oui, il est un peu, comment dire, un peu méta, je sais pas comment on m'avait dit ça, je sais plus. C'est Antoine, je crois, qui m'a dit ça, il se reconnaîtra. Mais en fait, vous savez, c'est l'histoire des arbres. À l'automne, les arbres, les feuilles tombent, la sève commence à se rétracter, se resserre dans le tronc, l'arbre n'a plus de lumière, il n'y a pas assez de lumière, etc. Il va pas s'amuser, en fait, à balancer de la sève partout, à droite, à gauche, à grossir à ce moment-là, en fait. Il se resserre, il se met en mode résistance, j'ai envie de dire un petit peu, donc dans les racines, dans le tronc, etc., pour pouvoir repartir au printemps et repousser, rebalancer de la sève dans ses branches pour faire des feuilles, etc., et reprendre sa croissance. Et ben moi, je suis pareil, en fait. Je suis pareil. L'automne, franchement, c'est pas une période qui est très propice pour moi. Et d'ailleurs, cette année, je dois le dire, j'ai voulu faire un programme VMA cet automne. Et j'ai explosé à la première semaine ou deuxième semaine. Déjà, par rapport à mon équilibre quotidien, c'était un moment où Camille, ma fille, était un peu malade. Il y a eu des rhumes, il y a eu des mal de ventre, il y a eu des petites choses comme ça. Donc le rythme a été un peu compliqué. Mais en plus, faire des séances de VMA telles qu'elles étaient planifiées comme ça, la flotte, etc. Sincèrement, et puis le manque d'énergie, le manque de soleil, c'était pas bon. Alors comment je me sens actuellement? Je me sens plutôt confiant dans la réussite de mes futurs objectifs. Un petit peu, je me demande un petit peu ce qui va se passer dans les mois qui viennent, hein, à quelle sauce, est-ce qu'il va y avoir des courses, pas de courses, etc. C'est pour ça que je planifie plutôt de faire des petites micro-aventures off plutôt que d'aller faire des courses et des dossards. Même si je vous avoue, par exemple, que quand je vois que vous êtes un certain nombre à aller faire le marathon d'Annecy, j'aimerais bien venir vous faire un petit coucou au marathon d'Annecy, mais je ne pourrais pas ce week-end-là parce que je suis pas disponible pour des raisons familiales, donc ça, je ne pourrais pas le faire. Mais ça me chatouille un peu, vous voyez, ce truc-là. Mais à part ça, franchement, je vais plutôt miser sur le off, etc. Donc je me sens plutôt confiant sur ces petites micro-aventures, ces défis plus ou moins gros, etc. je pourrais faire. Je suis très content de comment s'est déroulé le podcast, comment le podcast, ce qui s'est passé cette année. Je suis assez content de pouvoir courir tous les jours. Comment ça se passe? Il y a un peu de fatigue qui est due principalement en fait à une sorte d'équilibre, et je reviendrai sur les histoires d'équilibre entre le sommeil, un manque de sommeil par moment, etc., mais qui viennent aussi un peu de l'équilibre familial. Bref, il peut y avoir du mieux en fait un petit peu sur l'énergie, mais ça je travaillerai beaucoup sur janvier parce que ça va faire partie de mon défi. Et après voilà, je suis content de ce qui s'est passé sur le podcast, des sponsors, j'ai dit Nike, Adidas, Babel, il y a eu même, vous avez pu entendre des pubs pour Apple, vous avez pu entendre des pubs pour divers sponsors, il y a des sponsors qui sont en discussion, des sponsors qui pourraient être assez qui sont vraiment liés au sport, qui pourraient être sympas, etc. Et puis j'ai quelques projets en tête, et justement ça permet d'arriver à bientôt à une question qui m'a été posée sur ce sujet-là, dont je vous reparle un petit peu plus loin. Où en es-tu? C'est Sébastien qui me demande où en es-tu de ta formation en préparation mentale. Et ben j'attends le score final. j'ai fini ma formation préparation mentale en décembre. J'ai passé donc il y avait deux épreuves pour de validation de certification, un QCM où j'ai un score de 88 ou un truc comme ça. Je pense qu'il y a une ou deux questions, il y avait un adverbe à l'intérieur entre systématiquement ou pas systématiquement. Voilà, je pense que j'ai répondu d'autres, il y a deux trois trucs où je me suis planté sur les réponses, mais j'ai un score qui permet de valider largement la partie questionnaire. Et puis ensuite il y a une partie mise en pratique, et là il faut dire que j'ai eu une super cobaye, j'ai envie de dire. J'avais fait des appels à cobayes, etc. Alors sur le Hamster Running Club, j'avais fait des petits questionnaires. Je vais faire des petits retours dessus, expliquer un petit peu pourquoi, etc. Maintenant que j'ai tous les éléments. Et puis j'ai une première cobaye avec laquelle on a bien discuté, et j'avais plein d'éléments dedans qui m'ont permis de permettre de boucler mon étape de certification. J'attends le résultat qui normalement arrive fin janvier. Voilà, il faut que j'attende fin janvier pour savoir si je suis certifié en préparation mentale. Mais en tout cas, j'ai fait tous les modules, j'ai tout suivi. Vous avez déjà eu des sacrés aperçus, hein, si vous écoutez un peu certains épisodes du podcast. Vous avez des aperçus aussi dans les mails, vous en avez des aperçus dans mon compte Instagram. Ça commence un petit peu à venir, hein, notamment, je commence à en intégrer à l'intérieur. Je peux le dire, je peux faire de l'accompagnement sur ce domaine-là, si vous avez des questions, des discussions. Moi, j'ai une vision de la préparation mentale où je me dis que finalement, c'est ce qui me manquait sur mon premier marathon, c'était la capacité à me dire que j'en suis capable de le faire. J'ai beaucoup dit que j'étais pas capable de le faire. Et en fait, je voyais pas non plus les histoires d'objectifs, comment placer des objectifs. Par exemple, mon objectif, c'était de faire le marathon, mais j'avais pas placé de ce qui se passerait après. Ce qui explique que pendant 6 mois après mon premier marathon, je savais pas trop ce que j'allais faire comme course, est-ce que je faisais des courses, pas de courses, etc. Ben ça s'explique en partie pour ça. J'avais pas de stratégie de progression non plus. J'avais une stratégie de dire je dois finir le marathon, mais au départ j'ai pas de stratégie avec des objectifs intermédiaires de progression sur les moyens que je mets pour arriver à courir le marathon, à progresser, etc. Et tout ça j'ai vraiment travaillé. Donc je peux faire de l'accompagnement dans ce domaine-là. Vraiment avec même sur les routines, sur les habitudes. Si vous écoutez mes autres podcasts, notamment La Vie Créative, vous savez que je suis très 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 sur les habitudes. Donc j'ai beaucoup d'éléments là-dessus, et j'ai encore progressé, j'ai encore appris plein de trucs, donc vraiment là-dessus, on peut travailler là-dessus. Il y a un mot que je ne vais pas utiliser, c'est coach. Vraiment, je suis pas coach comme ça. Vraiment, de l'accompagnement, du conseil, vraiment de l'accompagnement. Mais on peut mettre en place des choses sur la préparation, sur les routines, sur la gestion du stress, sur les discours internes qu'on peut se faire, etc. Il y a plein de choses que je vous ai racontées dans le podcast sur les premières saisons, sur le début, sur la préparation, de plein de choses que je me rends compte que maintenant, en fait, avec les outils de préparation mentale, je peux m'appliquer à moi-même. Et ben, je peux voir les choses différemment, je peux construire les choses différemment. Ça, c'est vraiment un truc qui est pour moi vraiment vraiment super important, et vraiment que je veux partager avec vous, que je partagerai dans le podcast, que je vais partager dans plein de contenus que je peux créer et qui me tiennent vraiment à cœur. Ensuite, une question qui m'était posée par Tom Runner, bah tiens, que j'ai eu en invité deux fois. Il est venu une fois tout seul, une fois avec son coach. On avait parlé de ses défis ultra, etc. Il me demande mon prochain objectif. Alors mon prochain objectif, il commence le 1er janvier. Et là, je dis, hein, cet épisode étant diffusé le 29, on est très 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 proche là, 29 décembre. 1er janvier, je commence le challenge 496. 496, c'est le nombre de kilomètres que je vais courir sur le mois de janvier. Avec un principe qui est tout bête, c'est 1 kilomètre le 1er janvier, 2 km le 2 janvier, 3 km le 3, et bien sûr, arrivé au 31 janvier, 31 km dans la journée. Voilà. Et ben le total fait 496. Moi, il y aura un petit truc, c'est que le premier jour, ça sera pas 1 km, mais ça sera 1 miles, pour faire mon fameux miles et ne pas briser la série pour rentrer dans les classements des coureurs de tous les jours, etc. Le 26 janvier, je fêterai aussi mes 6 mois de course quotidienne, donc ça sera un petit événement comme ça, qui se fêtera donc par 26 km. Voilà, comme ça. Je le fais en kilomètres, hein, je fais pas en miles, parce que sinon, ça serait vraiment plus compliqué. Il y a juste le premier jour que je vais faire en miles. Donc, C'est un vrai gros défi parce que d'une part, je n'ai jamais fait pratiquement 500 km dans un mois. Sur la préparation marathon, j'avais des semaines autour de 70-80 km au maximum pour la préparation du marathon d'Albi que je n'ai pas couru à cause du Covid. Mais on était plutôt dans cette zone-là. Sur une semaine, sur un mois, ça faisait peut-être 250-260 km, quelque chose comme ça. Donc là, ça veut dire que c'est presque le double. Donc c'est un vrai gros gap avec... à partir, on va dire, du 15 ou du 20 janvier, des grosses journées. Donc, s'il va demander de l'organisation sur le plan de la logistique, organisation sur le plan des parcours, sur le plan de qu'est-ce que je vais amener. J'ai commencé à télécharger quelques livres audio. Je vais partir avec des podcasts dans les oreilles, bien entendu. Alors, les premiers jours, c'est facile. 1, 2, 3, jusqu'à 10 km, c'est facile. Jusqu'à 15, ça va pas être très compliqué, on va dire. C'est à partir... on va dire du 20 où ça a commencé à devenir compliqué, et puis bien sûr les jours à 30, etc. Je pense que je vais devoir, il y a certains jours, j'avais commencé à calculer que peut-être que je diviserai les séances en deux, j'en ferai un peu le matin, un peu pause déjeuner, ou le soir, vous voyez, 2x15 par exemple, ça pourrait être un truc comme ça qui pourrait se faire. Ça peut être un truc comme ça, parce que 30 km à mon allure actuelle par exemple, comment on va les faire lentement? Le but du jeu, c'est de te faire t'enchaîner. Donc, je sais pas faire 30 km, 20 km à fond, parce que le lendemain, après, on peut pas faire 21 km à fond, etc. Donc, c'est plutôt de l'endurance mentale. C'est une bonne préparation, je trouve, d'ailleurs, pour une des questions qu'on me pose après. Vous verrez laquelle. Mais c'est vraiment un vrai défi qui va demander de l'organisation au niveau du travail, au niveau du temps, parce que courir 3 heures en semaine, par exemple, ça va venir sur l'équilibre de vie et on va en reparler un peu plus loin. Donc il y a plein de choses qui vont jouer, mais ça va jouer aussi sur l'alimentation, ça va jouer sur la récupération, sur le sommeil, et ça, je pense que c'est un bon moyen de placer en fait les bons ingrédients pour bien lancer 2022, pour bien lancer ensuite ce qui va se passer derrière. Donc ça, mon prochain objectif, c'est le challenge 496. J'en ai parlé sur mon compte Instagram ce mardi, donc j'explique un peu le concept, mais vraiment c'est le 1er janvier courir 1 miles, le 2 janvier courir 2 km, 3 km, 4 km. Et je le dis, vous pouvez appliquer ce programme 496, ce challenge, en faisant autre chose. Par exemple, vous pourriez dire, je le fais en vélo. Ça peut être plus facile. Vous pouvez dire, je le fais aussi en faisant des squats. Un squat, deux squats, trois squats. Vous pouvez le dire aussi, je le fais en faisant des pompes. Une pompe le premier jour, deux pompes le deuxième jour, et vous arrivez au dernier jour, 31 pompes. Des fentes, vous pourrez dire aussi, lire une ligne de livre le premier, et puis 31... une ligne ou une page de votre livre et puis 31 pages le dernier jour, par exemple. Vous pourrez imaginer plein de choses, en fait, comme ça. Vous pourrez dire aussi, si vous avez de la création de contenu comme moi, vous pourrez dire, j'écris une ligne le premier jour et puis 31 lignes le dernier jour. Enfin, vous pourrez imaginer plein de trucs. Mais dans le sport, je vous ai donné des exemples. Par exemple, vous pourriez dire, je fais une pompe par jour, le nombre de pompes du jour du mois. Donc ça ferait une pompe le premier jour, deux pompes le deuxième, et puis arriver jusqu'à 31 pompes le dernier jour, et avec une vraie progression, etc. Et puis faire 31 pompes, soyons honnêtes, c'est fait en quelques minutes. C'est pas, moi je faisais 100 pompes tous les matins, il y a pas si longtemps que ça. Il faut pas plus de, j'ai envie de dire, 100 pompes, c'est fait en quelques minutes. Donc quand vous aurez fait une ou deux pompes, la première pompe, franchement, vous n'allez même pas l'avoir passée. Voilà, vous n'allez même pas l'avoir passée. Bref. Je vous propose ça, vous m'en parlez, vous venez sur Instagram, vous me taguez, vous utilisez le hashtag KM42podcast pour me parler de tout ça, pour me dire ce que vous faites, etc. Si vous suivez un peu mon conseil, et on regarde ensemble le mois de janvier, on fait ça tous ensemble. Hein, on fait ça, moi je cours, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, on se lance le défi de faire ça sur le mois de janvier. Alors ensuite, j'ai une autre question qui m'était posée par Running Bob, qui me pose une autre question sur les objectifs sportifs et perso et pour les podcasts en 2022. Alors, je l'ai dit, bien sûr, janvier, c'est le challenge 496. Ce que j'ai prévu sur 2022, ce que j'aimerais bien faire, en fait, c'est avoir un défi par mois. Alors, le mois de janvier, c'est le défi en lui-même. Voilà, tout le mois de janvier est un défi. Mais le mois de février, c'est trouver un défi, qui peut être, en fait, un micro-défi, une micro-aventure. Par exemple, j'avais imaginé un truc. C'est le 21 juin, le jour le plus long, ou la nuit la plus courte, c'est de courir... du coucher de soleil au lever de soleil. Vous voyez le truc? Vous voyez à peu près le truc, hein? Je pars courir au coucher du soleil, et je fais le tour, et au lever du soleil, j'ai fini de courir. J'ai vu un autre truc aussi, une vidéo que j'avais vue. Vous savez, c'est un gars, alors j'ai perdu son nom, qui a fait un des marathons. C'est un gars qui vit à la campagne et puis il a une route autour de sa maison qui fait un miles. Il dit, ben, si, toutes les heures, en fait, il va courir un miles, et puis, quand il rentre chez lui, en fait, il fait du bricolage, il fait à manger, etc. Et pendant 24 heures, en fait, il court. Chaque heure, il va courir, il fait le tour du pâté de maison. Alors, des fois, il part même avec une pelle, il plante des plantes et des arbres, etc. Il fait ça. Et à la fin, en fait, il arrive à faire 26 miles, soit, en fait, un marathon sur un 24 heures. En fait, c'est un 24 heures marathon. Et ben, j'étais en train de me poser la question, savoir si je pouvais pas faire ça sur, une fois, un week-end, me dire, bah tiens, mon défi, par exemple, du mois de juillet, je sais pas, je dis un truc au pif, comme ça, ça serait de dire, bah, je fais comme ça, sur une journée, je fais un marathon sur 24 heures, c'est-à-dire en faisant, finalement, 1,6 km toutes les heures environ, vous voyez, à peu près un mile ou deux, dans ce truc-là. Et puis, entre-temps, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je fais un bout de podcast, je fais de la vidéo, on fait du live, on discute, on fait des photos, on partage ça, etc. Je fais vivre ça au fur et à mesure. Et puis, à la fin, je fais une vidéo récapitulative. Bon, ça peut être un truc comme ça. Je vous mettrai la vidéo dans les notes de l'épisode sur mon site, faites bertrandsoulier.com, vous aurez l'épisode qui sera en une. Vous pourrez le voir assez facilement, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Vous verrez la vidéo, vous verrez le concept. C'est un des trucs que j'ai pu imaginer qui me plairait bien. Alistair Humphreys, dans son livre, parle beaucoup de micro-aventures. Il y a plein de micro-aventures potentielles, possibles, etc. Donc il y a plein de trucs. Lilian Doza aussi, on avait parlé de certaines. Par exemple, Lilian Doza, il sait dire ils vont marcher en ligne droite, quoi qu'il arrive, toujours sur une ligne droite, sur 2 km, etc. Ça peut être de partir une nuit, voir la pleine lune. Je m'étais dit, tiens, les jours de pleine lune, je pourrais aller courir, par exemple, un jour pleine lune, aller voir je sais pas quoi. Je m'étais dit aussi, à Noël, j'ai reçu un aéropress, vous savez, c'est une machine pour faire du café, mais c'est pas une machine électrique, c'est une sorte de piston que vous poussez à la main, et j'ai eu la version aéropress Go, c'est-à-dire qu'en fait, elle est mobile, donc en fait, il y a même la tasse, etc. Et donc l'idée, je m'étais dit, c'était de dire, bah, un jour, je pourrais partir avec de l'eau chaude dans une bouteille, et puis du café, etc., et aller me faire un café, bah, au sommet de ma petite montagne, là-haut, comme ça, au sommet de la petite montagne, me faire un café. En regardant le soleil se lever. Bon, ça, je m'étais dit, tiens, ça peut être un premier défi qui pourrait se faire. Mais ça, en fait, c'est un petit micro-défi. Vous voyez, je suis à quoi? Je suis à un quart d'heure. Et ben, je me suis dit un autre truc. Et je me suis dit, bah, tiens, je pourrais le faire ça au sommet du Puy-de-Dôme. Alors, le sommet du Puy-de-Dôme, moi, qui habite à Clermont-Ferrand, enfin, qui habite à Cournon, pas très loin de Clermont, dans la banlieue. Pour moi, en calculant mon coût, ça fait 20 bornes, à peu près. Dans ces zones-là. L'allée. Donc 20 bornes aller, 20 bornes retour, il y a du dénivelé, etc. Sommet du Puy-de-Dôme, c'est une belle montagne, il y a une belle vue sur les volcans d'Auvergne, etc. Vous voyez ce truc-là. Et je m'étais dit, bah tiens, ça pourrait être un truc que je pourrais faire. Alors est-ce que je vais le faire en courant? Pourquoi pas? Mais en fait, ça va rentrer dans la préparation d'un autre truc qui est le Gravelman. Et ça, j'ai commencé à vous en parler. Mon objectif de 2022, c'est le Gravelman. Et je me suis dit que dans cette logique-là de courir, faire un Gravelman. Gravelman, c'est 350 km de vélo sur un ou deux jours, grosso modo. Je vais devoir rouler, je vais devoir déjà trouver un vélo, etc. Mais ça, j'en parlerai. Je vais devoir rouler, préparer ça. Et ce type de petite aventure pourrait faire partie, en fait, aussi de la préparation gravel. C'est-à-dire de dire, bah tiens, je pourrais aller faire mon café, mettre ça dans les sacoches, chut, monter au sommet du Puy-de-Dôme, faire mon café là-haut, redescendre, etc. Vous voyez, ça, c'est un truc qui me botte un petit peu. Je vais continuer à faire mes coffee run aussi. Par exemple, mon vendeur de café, il y a un moment donné, il est sur un truc qui a 10 ou 12 bornes. Bon, ben, dernière fois, il était à 8 ou 9 bornes. Une fois, maintenant, il est à 13 bornes. Ben, ça, je pourrais le faire, un aller-retour, par exemple. Ça peut être ça. Une fois où on sera en vacances, ça peut être un défi, peut être de dire, bah tiens, je vais aller courir à tel endroit, ça fait tel chemin, tel coup, voilà, des trucs comme ça. Donc ça, c'est la partie micro-aventure. Il y a la partie gravelman, voilà. Donc chaque mois, un défi particulier, qui sera plutôt un défi sportif, mais je me suis mis que je pourrais peut-être des petits défis créatifs aussi, rajouter des petites vidéos, des choses comme ça, des petits podcasts, des choses comme ça à rajouter en plus. À voir comment on peut faire ça. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Sachant que donc il me faut 12 défis dans l'année, hein, donc attention, je vous vois venir les gars, hein, y a des trucs. Parce que derrière j'ai d'autres questions. J'ai deux autres questions et je vais les relier à ça. C'est est-ce que je vais aux 100 km de Millau ou pas? Merci Mathieu, papa Roadrunner, pour la question. Je n'en sais rien, je vais regarder la date. Il y a une question qui se pose, c'est que ma femme est en certification pour son diplôme de naturopathie. Il y a des examens qui vont se faire, je n'ai pas les dates. Et les 100 km de Millau pourraient très bien tomber sur un week-end où elle serait en examen. Donc moi, il y a ma fille et tout, donc ça ne serait pas possible. À voir. C'est un peu le problème du mois de septembre et du mois d'octobre où là je n'ai pas de visibilité. Et puis Mehdi qui me pose une question. Est-ce que je suis inscrit aux 24 heures de Plo RN? Non, je ne suis pas inscrit aux 24 heures de Plo RN, mais j'avoue que c'est une aventure qui me tente bien. Et les 24 heures de Plo RN pourraient être un défi, par exemple, du mois de novembre ou décembre, ça doit être ça. Alors que les 100 km de Millau pourraient faire partie en fait de mes fameux défis du mois de septembre. Voilà, par exemple, ça peut être rempli comme ça. Mon année 2022 peut être remplie vraiment de ce type-là. Maintenant, ça c'était pour le sport. Il y a Gravelman, bien sûr. Et puis ensuite, perso et pour les podcasts. L'aventure Gravelman va être documenté par le biais du podcast Kilomètre 350. Vous pouvez aller bertrandsoulier.com/km350 et vous aurez de quoi vous abonner, d'écouter la bande-annonce, etc. si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez chercher sur Spotify, Apple, etc. Elle est disponible partout. Vous pouvez déjà lui mettre une note si vous aimez bien le petite bande-annonce qui fait 3-4 minutes où j'explique un petit peu le concept. Donc ça, c'est pour le podcast. Le but du jeu, c'est de continuer à développer le podcast, d'aller chercher des invités, d'aller chercher des sponsors, d'aller chercher des partenaires, etc. Notamment parce que sur le gravel, j'ai aussi besoin d'un partenaire, par exemple sur les vélos, sur le matériel, sur plein de choses comme ça. J'ai besoin d'avoir des gens qui m'apprennent aussi comment tout ça fonctionne, etc. Enfin voilà, j'ai besoin de... Donc là-dessus, sur les podcasts, il y aura des choses. Le principe que je veux faire, c'est le développement de la partie Hamsters Running Club, la communauté autour du podcast, donc qui est pour l'instant une communauté qui est plutôt gratuite, discussion, etc., sur lequel je voudrais rajouter un espace un peu pas VIP, je sais pas comment on l'appellera, mais en tout cas un espace un peu de formation, dans lequel il y aurait par exemple toutes les semaines ou tous les 15 jours des vidéos de conseils sur l'alimentation, sur le renforcement musculaire, sur comprendre des termes techniques, etc., des choses complémentaires mais qui vont plus loin que ce que je donne dans le podcast, qui soit un petit peu le prix d'un magazine de running, vous voyez, dans cette zone-là, entre 5€ et entre 5 et 10€, quoi, grosso modo. Dans ces zones-là, pour avoir des conseils, pour avoir des éléments complémentaires, ça viendrait plutôt relier Patreon, mais là il y aura un changement dont je parlerai, mais qui concerne tous mes podcasts, et vraiment c'est la marque Bertrand Soulier, j'ai envie de dire marque générale, c'est-à-dire ce que fait Bertrand Soulier au sens large. Donc là ça concerne pas seulement ce podcast, mais tous mes podcasts et tout ce que je fais en ligne, mais ça je vous en reparlerai un autre jour. Mais vraiment dans l'esprit, ce que je voulais dire là-dedans, c'est que le développement du Hamsters Running Club, pour moi, il est important, avec des produits dérivés, des nouveaux idées de produits dérivés. Il y a mon hoodie qu'il faut que je change, il y a des casquettes qui ont été vendues, les tasses, il faut que j'en fasse des nouvelles. J'ai commencé à faire des stickers, mais j'ai trouvé un poil cher sur un truc, donc je vais voir un petit peu. J'ai trouvé un autre fournisseur de stickers. J'ai commencé à avoir des produits type des, vous voyez, des foulards, des choses comme ça. Bon, tout ça va se développer petit à petit. C'est pas trop pour l'argent que ça rapporte, en fait, hein, faut le dire, hein, si vous achetez une casquette, ça me rapporte 3 ou 4€, cette histoire-là. Mais c'est un petit peu, en fait, pour porter les couleurs du club. Voilà, porter les couleurs du club. En parlant de couleurs du club, il y a une question qui avait été posée, un sujet qui a été posé, pour lequel, dans les communautés New Hamsters, il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, c'est la création d'un vrai club, affilié à la Fédération d'athlétisme, voire à d'autres fédérations, par exemple la Fédération de triathlon, etc., qui serait le Hamsters Running Club, dans lequel vous pourriez prendre une licence, avec une vraie licence. Alors bien sûr, ça serait pas sur un entraînement, une zone d'entraînement, on se rejoindrait tous, etc. Mais en tout cas, ça fait partie des idées qui ont été émises, et il y a beaucoup de gens qui étaient partants pour faire ça. Donc ça fait partie des projets pour 2022 potentiels. Et puis bien entendu, moi, mon but du jeu, c'est de devenir champion du monde de mon monde. Et en fait, d'être champion du monde de mon monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire de pouvoir développer les podcasts et de pouvoir vivre à 100% du podcast, des podcasts. Mais ça veut pas dire que par la pub, ça veut dire aussi par des produits un peu dérivés, ça peut être aussi par... en janvier, j'ai prévu commencer l'écriture d'un livre sur comment un petit peu mon parcours, que ce soit à la fois mon parcours sur la partie course à pied, marathon, etc., mais aussi sur la partie podcast, comment je développais les podcasts et comment je développais tout ça et comment finalement, je deviens champion du monde de mon monde, influenceur un petit peu audio dans le domaine du sport, vous voyez, un petit peu l'influenceur running. Moi, le hamster obèse qui devient influenceur running, c'est un petit peu un problème, cette histoire-là, mais comment j'ai fait ça, comment le raconter, et comment d'autres personnes pourraient le faire dans leur domaine à eux. C'est-à-dire quelqu'un qui voudrait le faire dans le vélo, quelqu'un qui pourrait le faire dans le bobsleigh s'il a envie, ou le cheval, ou je ne sais pas quoi. Ça peut être des idées. Donc ça, ça fait partie des projets. Et puis, ça peut être des formations. Et puis, ça peut être de l'accompagnement, qu'on va pas appeler coaching, mais qu'on va vraiment appeler accompagnement sur l'organisation, sur le comprendre des plans d'entraînement, sur l'alimentation, sur mon parcours que j'ai eu par rapport à la perte de poids, sur de la préparation mentale, sur tout un tas de choses comme ça. Ça fait partie vraiment, en fait, de mes objectifs perso. Et puis, en fait, je peux vous le dire, il y a un truc qui me ferait vraiment kiffer. Donc je vous le dis comme ça, vous saurez si vous voyez passer ça, si je vous en parle sans faire attention. J'aimerais que, et là il faut que je trouve des partenaires pour l'instant, j'aimerais partir à votre rencontre dans toute la France, en fait. Et en fait, j'aimerais le faire en van. J'aimerais transformer, en fait. J'aimerais pouvoir trouver un partenaire qui prêterait un van, par exemple, parce que acheter un van pour l'instant, c'est pas possible. Et j'aimerais en fait partir à votre rencontre, à droite, à gauche. Et l'idée, en fait, ça serait assez bête. Enfin non, ce serait génial, en fait. Je vais vous dire. Allez, je vous le dis comme ça. Ça serait de dire, je parle vendredi. Je trouve un athlète local, un invité pour faire un épisode de podcast, enregistré. Pourquoi pas en public, avec des gens qui pourraient voir et tout. Mais pourquoi pas, à voir comment ça pourrait se faire. Et puis ou alors carrément dans le van, je sais pas, ou sur la terrasse du van, je sais pas quoi, pas sur le toit, ça dépendrait du van. Ça serait pour un jour. Et puis le lendemain, une séance un petit peu genre commune, voyez, un peu rencontre, etc. On pourrait courir ensemble, vous me feriez découvrir des trucs à droite à gauche, et puis on ferait une petite séance comme ça avec des partenaires potentiels. Et puis si le dimanche il y a une course, et ben qu'on fasse la course ensemble. Voilà, par exemple, genre sur Annecy, vous voyez, ça aurait été un truc comme ça. Le vendredi, je partirai le vendredi, je ferai un épisode de podcast avec un invité qui serait diffusé la semaine d'après. Le samedi, on fera une sorte d'échauffement pour le marathon, et le dimanche, on courra le marathon ensemble. Ça, bon, ce serait pas possible pour Annecy, je vous le dis tout de suite, parce que c'est des questions de date, mais ça me ferait vraiment kiffer, et ça, c'est le projet, le hamster tour, en fait, vous voyez, le hamster van tour, ou le tour, je sais pas comment on pourrait l'appeler ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai besoin de soutien, c'est aussi pour ça que j'ai besoin de sponsors, c'est aussi pour ça que j'ai besoin de pubs, etc. C'est parce que ça demande de l'organisation, du temps, ça demande plein de choses, en fait. Et ça demande, bien sûr, de l'argent. Bon, s'il fallait acheter un van, le van de mes rêves, il faut sortir, puis je parle même pas de la liste d'attente, hein, je parle du van de mes rêves, faut sortir 45 ou 50 000 euros, peut-être. Donc, il y a des locations, etc. Mais je me dis qu'on pourrait le faire peut-être par des partenariats, par des choses comme ça. Donc, c'est un vrai projet que je veux creuser. Et là, vous êtes témoin, en fait. Maintenant que je l'ai annoncé, en fait, c'est quelque chose que je veux monter d'une manière ou d'une autre, et que je me suis mis en tête d'arriver à le monter. Donc, je ne sais pas encore comment, mais c'est vraiment un des trucs que j'ai envie de monter. Voilà. Et maintenant, vous le savez. Voilà. Vous voyez, je vous le dis, vous êtes au courant de ça. Ce qui m'amène ensuite à la dernière question, c'est quel équilibre j'ai trouvé, comment le trouver entre travail, famille et sport, qui est la dernière grande question que vous m'avez posée. Enfin non, c'est l'avant-dernière grande question. Alors, moi, j'ai une caractéristique quand même, c'est que je suis travailleur indépendant depuis maintenant plus de 10 ans et demi. Je rappelle un peu l'histoire si vous le savez pas. Il y a 10 ans et demi, il y a 10, 11 ans, il y a 11 ans de ça à peu près. 10 ans et demi, 10 ans, 10 ans de ça. J'étais, vous voyez, pendant les fêtes de fin d'année, c'était la fin d'un arrêt maladie. Je travaillais dans un conseil régional d'Auvergne. Voilà, pour le dire. Et j'étais victime de harcèlement moral. J'avais un chef qui voulait tout faire pour que je parte, etc., et qui a réussi à le faire, mais pas au départ. Et un jour, en fait, quand je suis arrivé au bureau un matin, je tremblais tellement que je suis allé voir le médecin. Il m'a dit, vous pouvez pas retourner au boulot. Et j'avais vu comment s'appelle les RH. J'avais expliqué ma situation RH. J'avais vu la médecine du travail, etc., qui n'avait rien fait pour me défendre, mais rien fait. Personne n'avait rien fait pour me défendre. Et donc un jour, mon mental a lâché ce jour-là en disant, Et je suis allé voir le médecin, je tremblais de partout le matin, je suis allé voir le médecin, elle m'a arrêté. Elle m'a arrêté d'abord pour 15 jours, puis 15 autres jours, puis encore 15 jours, puis encore 15 jours, puis hop, au final 2 mois. Et puis, j'y suis retourné un 3 ou 4 janvier, voilà. Et 3 ou 4 janvier, ça a recommencé avec un chef qui me dit même pas bonjour, qui demande bah, mais qui met du boulot par-dessus la tête. Bien sûr, pour que je recraque, etc. Et encore une fois, bah au bout d'un moment je devais plein de trucs qui se passaient mal et je suis retourné voir mon médecin et mon médecin m'a dit la médecine du travail n'a toujours rien fait, mes chefs n'ont toujours rien fait, personne n'a rien fait. Et puis un jour il s'est passé 2 trucs. D'une part, c'est que mon contrat a été cassé par le tribunal administratif, mon contrat de travail, et donc j'ai dit bah j'en profite pour m'en aller, au revoir. Et puis en même temps, comme la pression continuait à augmenter, mon médecin m'a dit écoutez, c'est pas possible de continuer comme ça, vous allez y laisser votre peau et en fait bah, on va vous sauver de là. Elle m'a dit, vous retournerez jamais travailler là-bas, en attendant la fin de votre contrat. Et j'avais un contrat qui se terminait, donc j'ai fini en arrêt maladie comme ça. Et ça, c'était il y a 10 ans et demi. Donc il y a 10 ans et demi, je suis devenu travailleur indépendant, sans patron. C'est moi mon propre patron. Et en fait, c'est important que je vous raconte cette histoire-là. Pourquoi? Parce que, je suis très attaché à mon indépendance sur des choses et sur le projet, sur le fait que, si je vous parle des besoins de soutien de Patreon, d'argent, etc., c'est parce que en fait, c'est pas juste un hobby. En fait, c'est pas mon hobby, c'est mon métier. Ma fille, quand elle va à la crèche, enfin maintenant elle va à l'école, si quelqu'un lui demande son métier, le métier de ses parents, si elle va arriver un jour à l'école, ben je lui dis l'autre jour, je lui ai posé la question, je lui dis, tu diras quoi? Elle m'a dit, ben tu fais du podcast. Et ça, j'ai dit, oh, putain, oui, c'est ça quoi. J'ai envie qu'elle dise mon papa il est podcasteur. Et pour ça, il faut des moyens, il faut de l'argent, il faut des sponsors, il faut pouvoir payer un salaire, etc. Voilà. Donc c'est important. Et c'est pour ça que mon travail, en fait, c'est de faire du sport. Et donc, en fait, vous savez, je voulais devenir sportif pro à ma manière. C'est ça. Pourquoi je cours tous les jours aussi, c'est parce que j'ai besoin d'entretenir mon corps, j'ai besoin de travailler mon mental, j'ai besoin de travailler plein de choses et tout. Pourquoi je fais du podcast tous les jours? Ben, c'est pour la même raison. Et mon travail, c'est aussi ça, en fait. C'est de créer du contenu, c'est de créer des formations, c'est d'animer la communauté, c'est de gérer mon Instagram, c'est de gérer les relations pour la publicité, c'est d'enregistrer les messages publicitaires, c'est d'utiliser les statistiques, c'est de développer le podcast. Tout ça, en fait, c'est ça. Donc, ça, en fait, mon équilibre entre le travail, la famille et le sport, c'est ça. C'est comment je place tout ça. Et bien sûr qu'il y a des jours où ça passe pas très bien. Bien sûr qu'il y a des moments où ça passe même difficilement. Et qu'au mois de janvier, il y a un jour, un week-end, j'ai repéré, où je sais que ma femme, elle est en formation naturopathie, elle part le matin à 8h, elle rentre le soir à 18h, et moi je dois faire 26 bornes ce jour-là, ou quelque chose comme ça. Et forcément, il y a un moment donné... Eh ben, il va falloir trouver un relais, peut-être est-ce que c'est les grands-parents qui garderont ma fille à un moment donné pour la garder pendant que moi j'irai courir ou je sais pas quoi. Mais ce que j'essaye de faire au maximum, c'est que mon sport, souvent, quand ma femme par exemple part en formation le samedi et dimanche, ben moi je vais courir le matin. Il y a des fois je suis parti courir à 5h du matin, entre 5h et 7h du matin. Ma fille dort, tout le monde dort en fait, et quand je rentre, je peux faire 2h. Ben 2h par exemple, ça peut monter jusqu'à 20 km, vous vous rendez compte? Si à la limite je partais à 4h30, je pourrais même faire mes 26 km d'un coup. Et en fait, je rentre, c'est vraiment la sortie fantôme. C'est-à-dire que je rentre, même l'autre jour, ma femme m'a posé une question, m'a dit « Mais t'es allé courir aujourd'hui ?» Bah oui, oui, je suis allé courir ce matin, à 6h, je suis allé courir avec la frontale, etc. Alors, c'est sûr que l'été, c'est plus facile à faire, parce que l'été, au mois d'avril, mai, vous pouvez partir courir à 4h30, commence à faire jour, rentrer sans frontale, sans rien, on peut aller courir dans les bois, etc. Il n'y a aucun problème, en plus la chasse est terminée. Mais en hiver, c'est plus compliqué à faire, c'est plus monotone, etc. Et moi, j'ai besoin de courir de jour aussi par rapport à ma vitamine D, même si l'été, bon, l'hiver, il y a... La vitamine D, c'est mort, quoi. Quoi qu'on fasse, il faut la prendre en complément. Et moi, je manque de vitamine D, donc je sais ce que je dois faire là-dessus. Mais par contre, là où c'est super important pour moi, c'est que, en fait, ça me permet d'être là au réveil de ma fille, de préparer le petit déjeuner, etc. Et de pas trop m'absenter. Le soir, par exemple, le mercredi, ben, moi, je vais courir quand elle va au yoga. Donc, en fait, on a une activité sportive chacun au même moment. Mais le soir, avant, j'avais entraînement au running à 18h, entre 18h et 20h. Bah c'est plus le cas parce que en plus ça me faisait louper un peu le coucher, etc. Et ben maintenant je suis à la maison les vendredis soirs aussi, j'avais plus d'entraînement, donc je vais courir le matin, vous voyez, par exemple. Donc ça veut dire que le vendredi matin je vais avoir j'ai un rythme très particulier, j'ai même ma fille à la crèche et puis ensuite je vais en tenue de running et puis ensuite je pars à l'école, à la crèche, maintenant à l'école, On part comme ça ensemble. Et puis de l'école, je pars courir. Et puis je vais prendre mon café au marché. Et puis je rentre. Et puis je prends ma douche. Et puis je travaille. Là, j'aurai des réunions, par exemple. Et puis l'après-midi, j'enregistre des podcasts, des choses comme ça. Et donc ça dérange personne en fait. Vous voyez, c'est rentré comme ça. Mais je peux le faire parce que je suis travailleur indépendant. Et pourquoi je tiens à mon indépendance? Parce que je n'ai pas envie de me retrouver dans ce monde salarié, etc., qui viendrait tout bousculer, qui viendrait tout faire tomber. Mais je vous le dis aussi, il y a des jours ou des mois où je pense que tout était sur le point, était pas très loin de s'arrêter cette année. Il y a des moments où je me suis dit, mais je ne pourrais pas survivre comme ça. Il y a des moments où ça ne passera pas, où je ne peux pas le faire. Et puis, c'est là où un sponsor arrive. Et là, je dois remercier Nike, Adidas, etc. Ça fait du bien quand il y en a un qui signe, parce qu'on se dit, bah tiens, là, ça me paye 2 mois de salaire. Hop, et ben ça me laisse de la tranquillité pendant 2 mois, ça laisse le temps de préparer d'autres choses, de faire d'autres choses, d'autres contenus, etc. Et puis de voir venir un autre, et puis de dire, bah tiens, celui-là non, je suis pas obligé de l'accepter parce que j'ai d'autres choses, etc. Donc cet équilibre, il est comme ça. Comment le trouver? Bien entendu, ben moi, j'ai fait des formations sur le sujet, d'ailleurs, vous les trouvez sur mon site. Moi, je suis adepte de ce qu'on appelle le time blocking. C'est-à-dire qu'en fait, je bloque des moments de temps dans ma journée. Tous les dimanches, en fait, ce que je fais, c'est que je prends mon billet de journal, c'est mon carnet, dans lequel, en fait, je note quels sont les moments où je vais travailler, quels sont les moments où je suis en famille, quels sont les moments dans lesquels je vais faire du sport. Il y a des trucs, c'est des incontournables, en fait. Le lundi matin, j'amène ma fille à l'école. Donc ma fille, elle est à l'école à 8h15, 8h30, voilà, et puis j'entre à la maison, je travaille, et je travaille le soir jusqu'à 19h. Mais entre-temps, il y a un moment où je vais placer une séance de course. Le mardi, bah, c'est ma femme qui amène ma fille à l'école, mais moi je vais la récupérer à 16h30, et à partir de 16h30, eh ben, c'est du temps pour ma fille. Le mercredi, je vous ai dit, je travaille pas le mercredi. Je publie le podcast tôt le matin. Alors, je travaille tous les tôt, entre 5h et 7h tous les matins, quasiment systématiquement. Je publie le podcast, je finis de publier le podcast, etc. Je fais des publications à droite à gauche. Et puis ensuite, quand ça c'est fait, eh ben, ma fille se réveille. Et puis voilà, on s'occupe, on joue. Et puis ensuite, j'amène au yoga, moi je vais courir. Et puis ensuite, je la récupère. Des fois, on fait 2-3 courses. Et puis voilà, et puis c'est du temps de jeu, de sieste, etc. l'après-midi. Le jeudi, ben, on rebote comme le mardi. Puis le vendredi, je vous ai déjà un petit peu expliqué le principe. Donc ça, c'est comme ça en fait que l'équilibre il s'est fait, tout simplement parce que ça me permet de garder du temps. Et puis le week-end, souvent mes sorties longues en fait ne sont pas le week-end, justement parce que c'est soit ma femme par exemple quand elle est en formation le samedi dimanche, et ben une place une sortie longue de 2h, ben il faut que je parte à 5h et je rentre à 7h. Et ben si je dois manger un petit peu, vous voyez, ça me fait des nuits un peu courtes, etc. Donc je veux un peu éviter ça, mais je peux placer 1 heure de course. Souvent, je place 1 heure de course, partir entre 6h et 7h, par exemple. Mais je pourrais le faire. Je le ferai s'il y a besoin. Je le dis, hein, sur la préparation, quand je préparais le marathon d'Albi, je suis parti courir à 5h. J'ai fait du 5h, 7h15 une fois, 2h15 de sortie. Et qui, à l'époque, si on regarde, devait faire 23 bornes, un truc comme ça. Donc, c'est possible, en fait, de le faire. C'est vraiment possible de le faire, hein, de le faire avec la frontale, etc. Et en même temps, en fait, pour revenir sur l'épisode avec Runner Life, c'est là aussi où je fais un boulange run. Des fois, par exemple, je vais courir tôt le matin. Et ce que je fais dans ces cas-là, en fait, c'est que je suis allé chercher un jour des chouquettes pour ma fille. Ma fille a envie de chouquettes. La boulangerie qui fait des chouquettes, elle a 6 km. Et ben, je suis allé chercher des chouquettes en courant. Et donc, j'y suis allé en mode fantôme, c'est-à-dire courir très tôt le matin. Il faisait nuit, je pars courir comme ça, je vais chercher des chouquettes, il pleuvait plein temps en plus, je suis revenu, tout trempé, etc. Mais quand ça se réveille, il avait des chouquettes. C'est ça aussi mon équilibre, en fait, comment je le trouve. Le week-end, en fait, je fais pas de course, très peu de course. Bon, cette année, c'était des conditions particulières. Mais il y a des week-ends de course. Le but du jeu, moi, c'est que j'ai pas trop envie de laisser... dire que je pars tous les week-ends à droite à gauche pour faire des courses ou quoi que ce soit, en laissant ma fille soit tout avec ma femme quand ma femme est pas en formation, soit avec les grands-parents, etc. J'ai aussi envie d'en profiter, en fait. C'est vraiment du temps important. Et donc, comment je trouve l'équilibre? Bah, je découpe ma semaine, je me place des créneaux en disant, bah là je travaille. Et en fait, j'essaie surtout d'être, je ne cherche pas l'équilibre, je cherche en fait le profond déséquilibre qui crée en fait l'équilibre global. Et là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et en fait, c'est de dire qu'il y a des moments où je suis à 100% dans ce que je fais dans le podcast, à 100% dans le podcast, et dedans, par contre, bah, ma fille n'a pas le droit de rentrer dans cet univers-là. Il y a personne d'autre qui a le droit de rentrer. C'est ce qui se passe là tout de suite. En fait, ça fait 1h28 d'enregistrement. Et il n'y a personne d'autre qui a le droit de rentrer dedans parce que je suis à 100% avec vous dans le podcast. Et puis ensuite, il y a des moments où je serai à 100%, où je vais essayer en tout cas. C'est vraiment une de mes ambitions d'être au maximum de temps dans la vie de famille et maximum de temps aussi dans la vie, dans la course. Par moment, ça vient empiéter. Par moment, par exemple, le téléphone, je suis trop avec le téléphone. Dans la vie de famille, par moment, il y a des moments où Instagram, etc., je peux être trop dessus. Et ça, je voudrais éviter. Et c'est de même aussi, par exemple, sur des séances d'entraînement, il y a des moments où je dis, ouais, c'est trop beau et tout. Et j'ai tendance à ressortir le téléphone. Et donc, je suis trop dans le téléphone. Par exemple, je vais faire des playlists. Je fais des playlists de podcasts pour m'éviter à ressortir le téléphone, mais je vais faire quelques selfies. Mais je vais pas faire trop de séances de photos pendant. Il y a des séances en fait où je sais que je vais pas beaucoup courir, mais je vais faire plus de photos. Et puis il y a des séances en fait où je vais dire là je vais pas m'arrêter, je vais faire une ou deux photos pour faire mon selfie pour dire je suis passé à tel ou tel endroit, mais je m'arrête pas et je cours en fait. Et c'est vraiment là ce que j'appelle le déséquilibre dans l'équilibre, c'est-à-dire être très déséquilibré, très extrême en fait, de dire que quand je suis dans le travail, je suis dans le travail, quand je suis dans le sport, je suis dans le sport, et quand je suis dans la famille, je suis dans la famille. Et le reste ne vient pas. C'est là où il y a un déséquilibre, en fait. C'est pas de dire que quand je suis dans le sport, il y a un peu la famille qui est là, et un peu aussi le travail. Ça, j'essaye d'éviter. Quand je suis dans le travail, en fait, c'est vraiment là-dedans. Moi, la caractéristique, c'est que mon travail, c'est aussi le sport, en partie. C'est ce que j'ai voulu créer. C'est être champion du monde de mon monde. C'est pas être le meilleur sportif. C'est pas être le meilleur coureur. C'est pas être le meilleur athlète. C'est pas forcément avoir le podcast qui a le plus d'audience. Hein, aussi, c'est en fait d'avoir un équilibre comme ça. Et moi, ce qui me plaît en fait dans Kilomètre 42, ce qui va me plaire aussi dans Gravelman, parce que je sais que c'est ce qui va se passer, c'est que j'espère que ça va vous inspirer à faire vous aussi des choses en fait. Et pourquoi le Gravelman? Parce que c'est la dernière question qui m'a été posée, ça me permet de finir là-dessus. Je vous ai dit, en fait, quand j'ai commencé à courir, je n'avais aucun plan. Je ne savais pas où j'allais. J'avais pas de rêve, pas de plan. Et un jour, j'ai pris Stéphane Brognard comme coach pendant quelques temps. Et ça a duré 3 mois, puis après j'ai eu la blessure au genou. Et Stéphane Brognard me disait, mais t'as quoi comme objectif pour 2021? Et je lui dis, j'en ai pas. Je sais pas. Pourquoi? Je lui dis, j'en ai pas en fait. Il y a rien qui, sur 2021, il y avait rien qui me faisait vraiment vibrer en fait. Il y avait pas grand chose. Et puis à bout d'un moment avec Armano on avait dit tiens si il y a un truc qui va nous faire kiffer, c'est refaire un swimrun, mais le faire en ultra. Bon, ben il se trouve qu'avec mon genou il n'y a pas de swimrun, ça c'est une chose. Avec la fermeture des piscines, etc., avec mon retard de natation, je sais pas si c'est possible. Mais dans ma réflexion que j'ai eue et dans ce que j'ai vu en préparation mentale, il y a quelque chose que je sais, c'est qu'en fait il faut que je me projette sur quelque chose qui est plus long et des résultats potentiels, et les mettre les moyens en face. Donc sur cette première année, en fait, où j'ai réfléchi de cette manière-là, j'ai croisé aussi des personnes, et dans ces personnes, il y a certains Steven Lejarik. Et Steven Lejarik, j'ai suivi ses courses à vélo, j'ai suivi ses traversées du désert et tout. Et en fait, j'ai vu son documentaire aussi sur la traversée de l'Himalaya en vélo. Et plus je l'écoute, plus je suis, et plus j'ai envie de vivre l'aventure telle que lui l'imagine avec son gravelman en fait. Et c'est un truc qui me faisait kiffer. Et je vous avais dit en fait que j'ai un projet, c'était de devenir Ironman en 2023 et de faire le marathon de Paris olympique 2024. Ça c'est ce que j'ai placé en fait. C'est-à-dire que en fait, c'est de dire 2023 Ironman, 2024 marathon de Paris. Olympique là, enfin pas être qualifié en tant qu'athlète olympique, vous savez, open, etc. Mais ça sera un objectif d'avoir un truc, peut-être faire un temps sympa, enfin oui, je sais pas quoi. Et puis ensuite 2025, on verra. Ça fait un peu loin. Mais pour préparer l'Ironman, il y a un moment donné, il y a deux points sur lesquels il faut que je travaille, la natation, et là c'est là où le swimrun intervient, et le vélo. Et en fait, j'ai du retard dans les deux. Vraiment du retard dans les deux. Et donc, l'idée, c'était de dire, en fait, par quoi je peux commencer? Qu'est-ce qui est le plus facile? Et le plus facile, dans les conditions actuelles, c'est de commencer, même si j'ai pas de vélo, c'est commencer par le vélo. Et c'est de se dire, eh ben, sur 2022, je vais faire un gravelman, parce que ça va me donner un objectif qui va me forcer à rouler, en fait. C'est comme quand vous placez un objectif marathon, ça vous force, en fait, à courir pour préparer le marathon parce que vous n'avez pas envie d'être ridicule. Vous avez envie de le faire, votre marathon, vous avez envie de le faire. Et ça m'amène, en fait, à vous dire aussi pourquoi d'où vient le challenge 496. Il vient d'un anglais qui s'appelle Sean Conway. Oui, comme ça. Sean Conway. Et Sean Conway, en fait, j'ai découvert par Alistair Humphreys. Alistair Humphreys, j'ai découvert en grande partie par Lilian Doza. Et c'est un peu Lilian Doza, d'ailleurs, qui m'a parlé un petit peu du challenge 496 aussi. Et parce que je crois que lui aussi, il l'avait vu. Et en fait, il dit un truc, il dit, si vous prévoyez de courir un 5 km, inscrivez-vous au 10, parce qu'au moins, en fait, ça va vous forcer, en fait, à vous entraîner vraiment. 5 km, ça vous semble peut-être simple, mais si vous mettez 10 km, ça vous fait un peu peur. Là, vous allez vraiment vous mettre dedans. Et en fait, le projet Gravelman, c'est exactement ça, en fait. C'est de dire que si je me dis oui, sur 2022, je vais faire un peu de vélo, pour préparer ensuite l'Ironman, etc., je sais que je le ferai pas. Parce que j'aurai le temps de trouver un vélo, je me dis ouais, je trouverai un vélo, etc. Je peux m'entraîner tranquillement, je le ferai ça l'été prochain, etc. Là, non. Là, le truc, en fait, c'est de dire non, maintenant, si je veux faire un Gravelman cette année, il faut que je m'entraîne cette année pour faire du vélo. Et quand j'aurai fait 350 bornes de vélo, je sais que je serai capable de faire 180 km de vélo, quoi qu'il arrive. Vous voyez, c'est exactement ça. C'est en fait mettre les conditions de rassurance. Et l'idéal, vraiment, ça serait d'essayer de faire le swimrun. Vraiment, l'idéal, ça serait de faire cette année le swimrun et le gravelman. Sauf que je pense que dans les conditions actuelles avec les piscines, etc., je sais pas si ça va rester longtemps ouvert. Je sais pas comment ça va se passer l'entraînement. Je sais pas si c'est possible ou pas de faire un swimrun cette année. Comment ça va se passer. Alors que par contre, faire un gravelman, je sais que ça sera possible. Et je sais d'une manière ou d'une autre, en fait, ce qui va se passer, c'est que le défi Gravelman, c'est que le truc, moi, c'est que je veux faire l'aventure de Stephen O'Leary sur les routes, etc., et l'organisation telle qu'elle est faite. Je peux, ça peut être le Gravelman Auvergne, mais ça peut être un autre Gravelman. Et je me dis qu'à la limite, les 350 bornes de vélo, je peux les faire aussi tout seul, en off, un jour ou l'autre. Je peux le faire en gravel. Ce qu'il faut que je trouve, bien sûr, c'est un gravel. Alors pour l'instant, l'entraînement, je le raconterai dans le truc 350, ça a plutôt commencé par quelque chose comme je vais faire du vélo d'appartement, bon, pas terrible, mais je vais ressortir, surtout faut que je gonfle les roues de mon ancien fixie qui amène dans deux vitesses, c'est plus un fixie, il a deux vitesses, et j'ai déjà fait 25 bornes avec, donc je peux en faire 50, comme dirait Elias. Et puis une fois que j'aurai fait 50, peut-être que je pourrais voir 100. Et à partir de là, ça me laisse un petit peu de temps pour commencer à rouler, pour en faire un peu plus. Et à partir de là, de trouver le temps, de trouver un vélo, etc. L'autre jour, j'ai demandé à Decathlon pour regarder un petit peu quand est-ce qu'ils auraient des vélos. J'ai regardé un peu les tarifs, je regarde un petit peu ce qui se fait. Je commence à trouver, à chercher des partenaires aussi autour du projet, etc. Enfin, vous voyez, tout ça commence un petit peu à se monter. Mais le Gravelman, en fait, pour moi, c'est un résultat, devenir Gravelman, j'ai envie de dire, faire les 350 bornes, qui m'oblige à mettre des moyens en face, qui me permet ensuite de passer la marche, qui permettra de passer l'Ironman. Et voilà, vraiment. Et ensuite, bien sûr, il y a le projet Paris 2024, d'être qualifié, d'arracher la qualification par les points, etc. Je ferai un épisode spécifique un jour sur le sujet, parce qu'il y a des gens qui écoutent le podcast, qui eux ont de l'ordre de SAR, qui sont qualifiés. Je voudrais qu'on en discute de comment ils ont fait, et puis je voudrais avoir des gens de l'organisation, tout simplement, pour expliquer comment on fait, qui nous expliquent vraiment les systèmes de points et tout, tous les astuces qu'on peut trouver, comment on peut... s'il y a des étoiles magiques, etc. Mais vraiment, c'est me placer dans une dynamique sur le long terme. Et sur le long terme, en fait, l'autre jour, quand je courais, je commençais à me dire, mais qu'est-ce qu'il y a après? Quelles sont les courses qui me feraient rêver? Qu'est-ce que je pourrais faire après? Avec beaucoup d'invités, quand je leur pose la question, ils me disent, marathon de New York? Ouais. Marathon de Boston? Ouais. Moi, voilà. Vous voyez, des trucs comme ça me ferait rêver. Mais pour ça, il faut gagner de la vitesse. Ce que disait Damien, Runner Life 35, c'est inspirant de dire que lui, il a gagné 2 heures sur marathon. C'est quand même inspirant, ces histoires-là. Mais peut-être que finalement, courir un 100 km cette année, par exemple le 100 km de Millau, c'est un truc qui va me faire kiffer. Parce que finalement, quand j'aurai fait les 496 du mois de janvier, je me dis que faire une préparation pour faire un 100 km de Millau, ça me semble pas du tout impossible. Comme les 24 heures de Plo RN. Pas du tout impossible. J'avais même dit à Mehdi, si 24 heures pour le RN était en février, le mois de janvier me servirait d'entraînement et je pourrais aller faire les 24 heures directement derrière, et ben j'avais cherché voir s'il n'y a pas des 24 heures, où est-ce que ça pourrait se faire, etc. Donc voilà un petit peu l'esprit de comment je vois les choses et comment se place le Gravelman. Et donc si vous voulez suivre l'aventure Gravelman, ben bien entendu vous faites bertrandsoulier.com/KM350, ou alors vous cherchez KM350 sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon, Google, etc. Toutes les plateformes de podcast. Vous aurez la bande-annonce, vous pouvez écouter la bande-annonce, vous pouvez mettre une petite note, etc. Vous pouvez mettre un petit commentaire, et vous allez voir tout ça. Sur ce, cet épisode de bilan de l'année se termine. Vous voyez, c'est pratiquement l'épisode le plus long. Ça fait 1h38 que j'enregistre. Je dois vous dire, on est en pleine nuit, en fait. Pour vous voyez un peu l'équilibre, ça doit être une nuit... Normalement, je dors très tôt, mais là, je voulais prolonger avec vous dans l'intimité de mon bureau. Je voulais vous remercier. Voilà. Déjà, je voulais vous remercier, si vous êtes encore là, déjà d'avoir écouté cet épisode entièrement. Mais en fait, je voulais vous remercier pour cette belle année qu'on a passée ensemble. Et je voulais vous féliciter aussi pour vos efforts. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on discute beaucoup. Vous m'envoyez des messages sur Instagram. Mettez des commentaires, etc. Et moi, je vois aussi ce que vous faites. Et je vois, vous m'encouragez. Puis moi, je viens vous encourager. Vous me posez des questions. J'essaie de répondre au mieux que je peux. Et je vois vos efforts. Et je vois certains, le lundi, me disent, ou le dimanche soir, ils m'envoient un petit message. Ils me disent, j'ai fait le trail de ça. Je pensais pas être capable de faire. J'ai fait ce marathon. Et ben aujourd'hui, j'ai réussi à faire. Je suis champion du monde de mon monde. Vous pouvez pas savoir à quel point ce genre de message, ça me fait kiffer, en fait. C'est ça le truc, l'une des récompenses. Je disais, il faut que j'arrive à gagner ma vie avec le podcast, mais ma récompense, c'est pas de gagner de l'argent, de devenir riche avec ou quoi que ce soit. Ma vie riche, en fait, c'est d'être en bonne santé, d'être un vieillard galopant, comme dirait Philufo, d'être un bon papa, et j'espère d'être un bon mari, et d'être, comment dire, en bonne santé, le plus longtemps possible, et d'être heureux. Et être heureux, en fait, la vie riche telle que je la vois, c'est aussi, en fait, de voir comment vous devenez, en fait, plus heureux grâce au sport, grâce au mouvement, grâce à la course à pied. Comment le fait d'avoir retrouvé du mouvement vous donne plus confiance, parce que je pars d'un principe, en fait, c'est que quand on a réussi à courir 5 km alors qu'on se sent incapable, eh ben, on se sent capable tout d'un coup de faire d'autres choses. Quand vous avez couru 10 km, vous vous sentez capable, peut-être, de changer de boulot. Peut-être que quand vous avez couru un marathon, vous vous sentez capable de lancer une entreprise. En vous disant, si j'étais capable de le faire, si j'étais capable de passer tous les murs du marathon au sens propre et figuré, ou d'un ultra ou des choses comme ça, eh ben je suis peut-être capable de me lancer en auto-entrepreneur pour faire ça. Je suis peut-être capable de lancer des systèmes de formation. Je suis peut-être capable de donner des cours. Je suis peut-être capable de faire ça. Alors, je m'en sentais pas capable. Mais la logique, en fait, c'est de dire, eh ben puisque j'étais capable de passer les obstacles pour faire telle ou telle course, je suis maintenant capable de passer les obstacles pour faire tel ou tel projet. Et ce projet, c'est à vous de le choisir, en fait. Et c'est là, en fait, où moi, ma philosophie, c'est de dire qu'on construit notre vie, tout ce que l'on fait au quotidien, les petites actions du quotidien, ce que j'appelle l'action minimum viable. Pour moi, c'est de courir et de faire du podcast, ce sont mes actions minimum viables. C'est pour construire ma vie future. Et en fait, ce Kilomètre 42, beaucoup de gens pensent que c'est un podcast de course à pied, mais c'est aussi un podcast de développement personnel. C'est un podcast de développement personnel par le mouvement, par la course à pied, par la confiance que nous donne le sport, le fait que notre corps fonctionne et qu'il fonctionne de mieux en mieux, et ben ça nous aide à faire plein d'autres choses. Et vous voyez pourquoi j'adore les épisodes. Nadir, c'est ce qu'il nous a dit. C'est ce qu'a dit Phil. C'est ce qu'a dit Jean-Yves. C'est ce qu'ont dit tous les invités du podcast. Tous les invités du podcast n'ont rien dit d'autre que ça, en fait. Et voilà. Donc je voulais remercier déjà tous les invités. Je voulais vous remercier tous en tant qu'auditeurs. Je voulais remercier tous ceux qui soutiennent. Je vous souhaite à tous une belle réussite, mes meilleurs vœux pour 2022. Je vous remercie aussi pour tous vos partages. Je vous redis bravo pour tous vos efforts. Et en fait, je vous souhaite à tous une belle réussite, une belle année, mes meilleurs vœux pour 2022. Et je nous souhaite à tous une belle année 2022. Et je nous souhaite à tous que nous devenions champions du monde, de notre monde, tous ensemble. Chacun de notre manière. Chacun champion du monde de notre monde, mais c'est notre objectif de 2022. Alors je vous souhaite à tous le meilleur du monde et qu'on soit tous champions. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao ciao les sportifs, ciao ciao les champions. Bon, c'est encore moi. J'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter un autre épisode de podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner, bien entendu, au podcast. Vous pouvez le faire sur Spotify, Apple Podcasts et tous les lecteurs de podcasts. Mais aussi, si vous le voulez, à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement. Allez, ce coup-là, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle journée.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.